Comment ça va, Valentin?
Ça va et toi, Antoine?
Bien, ça va?
Toujours bien, ouais.
Tu supportes ce temps d'hiver absolument déprimant?
Il n'y a aucun problème avec moi, l'hiver, ça me fait ni chaud ni froid.
Il n'y a jamais un facteur dépressif qui arrive en hiver.
C'est pas conscient, quoi. Je pense que tu te rends compte après coup que c'était peut-être dû à l'hiver si t'es un peu dans le mal.
Ouais.
Mais non, enfin, je suis pas trop gaffe.
D'accord, ok. Moi j'ai quand même vachement de mal avec ce délire, il fait nuit le matin, il fait nuit le soir, il fait nuit tout le temps.
Ouais, ouais, mais après toi t'as le rythme quoi, classique, quoi, t'as des horaires de boulot classiques, tout
ouais.
Ça, tu pars le matin, il fait nuit.
Ouais.
Moi je suis en décalé, un coup je suis du matin, un coup la nuit, donc je vis un peu en décalé.
Ouais, ouais, moi j'ai un peu l'impression d'être dans un film de Tim Burton en permanence, quoi. C'est un peu les boules. Bon, et sinon, ça se passe, toujours sportif, toujours actif.
Ouais, toujours la même chose, quoi. Vélo, karaté, judo, vite fait, on en a parlé un peu avant, là. Donc non, tout va bien. Et toi, toujours à fond, là?
Écoute, comme fidèle à moi-même, j'ai eu encore 2-3 petits pépins physiques.
Sérieux?
C'est-à-dire, j'ai eu un problème musculaire au niveau de la cuisse droite, une espèce de d'élongation, enfin, un souci musculaire. Donc ça m'a pas empêché de faire du sport à côté, mais j'ai dû aller plus doucement. Je pouvais pas faire de sprint, je pouvais pas faire de squat, enfin de trucs trop explosifs. Donc c'était un petit peu relou.
Comment?
En y allant comme un gros bourrin sur le tapis de course.
Ah ouais, non, sur un tapis de course.
Bah c'est à dire qu'en fait j'avais pas fait de sport depuis 2 ans comme tu sais déjà.
Ouais.
Et quand mon kiné m'a dit c'est bon tu peux reprendre de sport et tout machin, j'ai un peu pété les plombs. Et du coup je faisais des sessions où je finissais genre sur 5 minutes de sprint où j'accélérais. Parce que l'avantage du tapis de course c'est que tu peux vraiment tu peux régler ton niveau de vitesse, tu peux régler ton inclinaison. Ouais. À la fin je finissais genre à 15 km/h avec une inclinaison à je sais bien pas combien de pourcents.
Ouais.
Un mois de ça et puis au bout d'un moment ça fait genre calme-toi, ça fait 2 ans que t'as pas fait de sport. Donc voilà.
Ah, t'es un peu hardcore quand même.
Et c'est pas fini parce que au niveau de la cuisse ça va mieux, mais j'ai une douleur. J'ai une douleur au niveau du genou droit, au niveau de la face interne, comme on dit chez les pros.
Ouais.
Et selon mon kiné, c'est peut-être un peu plus problématique et ça va peut-être nécessiter un passage sur le billard.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais. Donc ma vie sportive n'est juste qu'un enchaînement de frustration, quoi. J'ai genre environ un mois, deux mois d'entraînement cool et puis après j'ai genre deux mois de.
Mais t'es trop violent, c'est pour ça.
De rééducation. Ouais, il faut que je m'écoute un peu plus.
Non, mais les genoux, par contre, c'est le truc qui me fait peur. Moi, je me suis pas fait trop de blessures, juste. Ouais, une sorte de. Une élongation, pareil, mais sur des étirements un peu trop. J'ai trop tiré, quoi. Et sinon, ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu mal au genou et ça me fait un peu peur quand ça fait mal au genou. Après, ça arrive, ça repart, donc j'ai pas le temps de m'en inquiéter, mais dès que ça pique un peu, je me dis, j'espère que ça va pas durer, quoi.
Ouais.
Mais bon, je suis pas allé consulter et puis ça va, j'ai pas mal là tout de suite.
Où est-ce que ça te fait mal d'habitude?
À la pointe.
Mais toujours au même endroit, quoi. Toujours au niveau du genou.
Ouais, des fois, mais c'est vraiment ponctuel. C'est, par exemple, quand c'est genre il y a 2-3 jours, je suis parti en vélo au boulot en poussant un peu plus. Parce que pour ce moment, j'y vais tranquille. Et là, j'ai voulu tracer un peu. Et j'ai senti en poussant sur le gauche que j'avais un petit truc, mais bon, c'est parti, quoi. Donc je sais pas. Ça m'arrive, ça fait des années que ça fait ça. Donc,
ouais. Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que je me pose plus la question si je me fais mal au mollet, enfin, je me dis, ouais, c'est bon. Le genou, je me dis, ok, si ça revient, faudra faire gaffe, quoi. Mais là, pour l'instant, j'ai de la chance, pas trop de soucis, quoi.
Ok. Et tu continues toujours du yoga?
J'y suis allé. En fait, on y allait ensemble en début d'année, là.
Yes.
Et moi, j'y suis retourné, quoi, genre 2 fois depuis, quoi. Donc pas tant que ça, quoi.
D'accord.
Mais j'aimerais bien en faire plus souvent.
Ouais. Ouais, c'est moi j'essaie d'y aller tous les samedis matin.
Ouais.
Mais là ça va faire 3 semaines que j'y suis pas allé pour des raisons diverses et variées.
Ouais.
Mais j'ai bien hâte d'y retourner cette semaine. J'espère que faudrait que d'ailleurs j'appelle mon club parce que vu que ça va être Noël, je sais pas s'il y a yoga le jour de Noël, quoi, tu vois, mais
il manque que ça soit fermé. Hein.
Ouais. Enfin que le cours n'est pas lié en tout cas.
Ouais.
Mais c'était cool parce que j'en parlais avec mon kiné du sport justement.
Ouais.
Et il me disait parce que moi avant j'avais tendance à me faire chier à faire mes étirements passifs, d'abord faire un petit échauffement à la salle, faire mes étirements passifs et une fois que j'ai fini mon sport, de faire une séance genre de 20 minutes de ce qu'on appelle les étirements actifs. Ou non, c'était inverse. Je commençais par les étirements actifs et je finissais par les passifs.
Ouais.
Et c'est relou, ça prend un quart d'heure, 20 minutes et c'est un peu pénible, mais pour moi ça me permettait d'éviter des blessures.
Ouais.
Et en parlant, ce qui m'a pas vraiment évité blessures, mais
qu'au final t'en as plein.
Oui, c'est ça, ça change pas grand chose.
Ouais.
Et en parlant à mon kiné, il m'a dit que si tu t'étires trop régulièrement, au contraire ça peut te pénaliser, quoi. Ça peut te faire mal sur le long terme. Et il me dit si t'arrives juste à rajouter 1 à 2 séances de yoga dans ta semaine, c'est ce qui te servira de séance d'étirement, quoi. Donc depuis j'essaye de m'attacher à ça.
Ouais, moi j'y connais rien. J'ai essayé un peu de, enfin, non pas de me documenter mais de d'en savoir un peu plus là-dessus, mais je sais jamais. Quand tu regardes, quand tu lis un peu les trucs là-dessus, t'as plein d'écoles différentes de mecs qui disent justement que c'est mieux d'avoir les étirements actifs d'abord, passifs à la fin. Certains qui disent qu'il faut s'étirer, enfin, de pas s'étirer tout le temps, mais faire une longue séance par semaine. Enfin, il y a plein d'écoles différentes et j'ai pas eu le temps d'expérimenter, j'en sais rien.
Tu t'étires, toi ?
Vite fait.
Vite fait.
Je m'étire quand je suis en cours de karaté, quoi, en finale. Chez moi, je devrais le faire, je le fais pas.
Est-ce que tu fais des vrais étirements ou tu fais genre tu ramènes ta jambe derrière ton dos pour tirer la cuisse, une espèce d'étirement à l'arrache ou
J'en sais rien, c'est plein d'étirements différents, j'y connais rien, franchement.
D'accord. C'est des étirements qu'on te montre en cours ou
Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais,
d'accord.
Donc c'est un peu cadré, c'est pas juste moi qui décide de tirer un truc comme je le sens, quoi. Donc non, c'est. Puis je sens la différence par rapport à quand j'ai commencé maintenant certains étirements que je maîtrise. Enfin, je maîtrise pas, mais sur lesquels j'ai progressé. Mais après, ouais, non, je sais pas. Je devrais en faire plus, mais j'en fais pas assez, quoi.
Ok. Ok, ok.
D'ailleurs, c'est sur un des étirements d'entraînement que je me suis fait une sorte de déchirure à la cuisse, c'était il y a un an et demi.
Ouais.
Ouais, ça va faire un an et demi. Enfin, c'est pas que je le sens encore, mais enfin, si. Quand je m'étire de ce côté-là, je le sens. Enfin, je sens qu'il y a une petite pointe de douleur en plus par rapport à l'autre côté, quoi. Et j'ai demandé à des mecs autour de moi, ils m'ont dit, ouais, bah moi j'en ai eu il y a 6 ans, je le sens encore. Ok. Apparemment, tu peux rien y faire.
Ouais. Voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est un peu l'enfer. En fait, à partir du moment, je connais personne qui est jamais à 100%, quoi. Quelqu'un de sportif, je connais jamais quelqu'un qui est exempt de toute douleur ou quoi que ce soit. Ouais, c'est. Bon, écoute, on fait avec, quoi. Mais après, ce qui est quand même assez pénible, c'est qu'à chaque fois, c'est vraiment genre, je fais du sport. Bam, j'ai une interruption pour un truc à la con.
Ouais.
Je reprends, bam, hop, j'ai encore une interruption, quoi. C'est toujours un peu pénible.
Ouais, peut-être qu'il faut que tu prennes le truc vraiment. Enfin, pas progressivement, mais. De manière méthodique, quoi, vraiment une bonne fois pour toutes, savoir quel truc suivre pour pas t'éclater, enfin je sais pas,
c'est clair. Je pense que aussi je devrais faire l'effort de juste de m'écouter tout simplement et de me dire aujourd'hui, bon, je suis fatigué, je vais à la salle, mais je vais quand même y aller plus doucement, quoi.
Ouais.
Aujourd'hui je suis en forme, je vais pouvoir y aller comme un bourrin, et ouais. Parce que j'ai tendance à, quand je fais du sport, j'ai tendance à toujours rester sur la même intensité, quoi, toujours sur la même ligne, en fait, peu importe mon état, et mine de rien, ça m'a pas, enfin, sur le court terme, ça finit toujours par péter, quoi. Donc et comme je veux dire, j'ai absolument, je suis pas un compétiteur ni quoi que ce soit, faut que j'arrête de mettre la pression aussi, c'est un peu con, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est... Ouais. Est-ce qu'on peut aller dans la psychologie un peu là?
Avec plaisir. Moi, je me sens d'humeur transparente, donc.
Moi, j'ai envie de savoir justement qu'est-ce qui fait que tu te donnes autant. C'est quoi qu'ils disent les Américains? J'ai jamais compris cette expression. Chip on your shoulder.
Ah, j'ai. Ouais, tu sais que je vais avoir la définition plusieurs fois sur internet et j'ai jamais réussi à intégrer le truc, quoi. J'ai même des potes, nos potes des Janitors qui jouent dans un groupe,
ouais.
Et qui font une reprise de ce groupe mythique des Cox Par Heure, qui ont une chanson qui s'appelle Chip on My Shoulder,
ouais.
Et c'est jamais rentré, quoi. Je suis là, ouais. J'ai pas en concert, je chante les paroles, mais, patate sur mon épaule, putain, j'arrive pas à interpréter le truc. Qu'est-ce que ça veut dire, une patate sur mon épaule, putain, une pomme de terre.
Non mais ouais, est-ce que tu saurais donner une raison pour laquelle tu te pousses autant? Parce que je veux dire, c'est que tu cherches à te prouver quelque chose.
C'est la haine qui m'habite. Non, mais en fait, comme tu le sais, il y a pas très longtemps, il y a un ou deux mois de ça, je me suis enfin fait un compte Facebook.
Ouais, ouais.
Je me suis enfin vraiment mis sur Facebook.
Ouais.
Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Et du coup, j'ai repris contact avec tous mes potes. Qui sont dessus, et direct je me suis fondu dans le moule, j'ai balancé plein de mimes à la con, je disais de la merde sur la photo des potes, et c'est super. Bon, maintenant j'y vais déjà plus, en fait.
Ouais.
Le seul truc qui me tient encore, c'est que avec des potes qu'on a en commun, on a un groupe de conversation sur Facebook.
Ouais.
Et toutes les journées on se balance des conneries, nanani nanana.
Ouais.
Et des fois on se raconte nos vies, tout simplement. Et il y a toujours le même sujet qui revient, sachant que dans le groupe on est 6, si j'ai pas de bêtises, et sur les 6 on est que 2 à être vraiment sportifs. Avec notre pote Vincent qui fait de la savate.
Ok, ouais.
Voilà. Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser, quand je vois les messages des autres, genre putain, qu'est-ce que je ramasse aujourd'hui, genre putain, ça fait 2 mois que je suis pas allé à la salle, ça c'est pire.
Ouais.
Genre Benji, notre ami Benjamin qui fait genre putain, j'ai couru, j'ai fait de la muscu, mais je sais que demain j'en ferai pas une, donc c'est de la merde, ça sert à rien. Et je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que, bon, je fais ça, enfin il y a une partie de moi qui fait ça juste pour moi, pour être entretenu, quoi.
Ouais.
Mais je sais que, en tout cas pendant longtemps, notamment quand je m'étais mis à la boxe, je sais que ce qui était cool avec tout ça, c'est que de côté sportif, j'étais un des seuls dans notre grand groupe de potes à avoir ça, en fait, quoi.
Ouais.
Et ça permettait pas de me mettre au-dessus des autres, c'est pas ça délire non plus, mais ça me permettait de me mettre d'être un mec un peu à part, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, ok.
Il y avait, je vais pas avoir peur des mots, il y avait limite un peu un délire de poseur, quoi.
Ouais,
même
ouais,
si j'ai jamais, enfin, tu peux me le dire, mais je pense pas avoir roulé des mécaniques ou.
Non, je me
l'ai raconté, mais tu vois, mais il y avait quand même, j'étais quand même content d'avoir ça, quoi. Genre,
ouais, ouais.
Moi, je fais du sport et je suis un mec.
Ok.
Je suis un mec badass parce que je fais plein de sport. Et je pense qu'en fait, ça répond à une angoisse, ça répond au fait que genre j'ai pas confiance en moi, que voilà, ouais, que j'ai peur du regard des autres, nanani. Et du coup je pense que le fait que j'ai tendance à en faire trop dans la salle, dès que je reprends pleine possession de mes moyens,
ouais,
je pense que c'est ça qui joue aussi, quoi.
Okay.
Parce que je suis quand même depuis le temps, je suis au courant que genre si je suis fatigué, faut que j'y aille mollo.
Ah bah ouais, ça qui.
Et pourtant je peux pas en empêcher, quoi. Donc je pense qu'il y a une partie de ça qui joue aussi, en fait.
D'accord.
Genre okay, il faut absolument que je sois stockos parce que je me suis un peu donné cette image de mec.
Ah ouais, t'as un peu ce côté où tu te dis comment dire. Maintenant que j'ai cette pas identité, mais maintenant que je suis un peu qualifié comme un mec dans le sport, bah il faut que je le sois parce que maintenant c'est moi. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, mais
oui,
est-ce que t'as cette part-là de dire ouais, vu que je suis affiché officiellement comme sportif, bah il faut que je sois vraiment sportif.
Je me suis collé cette image et genre je me mets la pression.
La pression,
ça.
Ok, ouais, d'accord.
Ouais. Je pense qu'il y a
ah
ouais,
okay,
ça. Parce que c'est franchement, je dis quoi. J'ai quand même une certaine satisfaction quand on est en groupe et qu'on parle, et que si je vais dire genre putain, j'ai couru 3 quarts d'heure en faisant du fractionné en inclinaison, et puis après j'ai fait de la muscu, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche glacée, j'étais trop bien, quoi.
Ouais.
Quand je vois tout le monde qui fait genre waouh, bah ouais, bah j'en tire quand même une petite satisfaction personnelle,
okay,
quoi. Même si je fais mec blasé et que je fais une blague genre non mais je suis qu'une merde, il n'empêche que voilà, ça me met un peu de baume au cœur, quoi.
Ouais, okay,
sur mon petit ego fragile, donc il y a quand même ça qui joue.
Ah ok, ok, ok. Ah c'est marrant, moi j'avais pas du tout perçu ça, on en apprend des choses.
T'es qu'une merde, Antoine. Mais... non mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a ça qui joue, ouais, ça je ne peux pas nier.
Ok, d'accord. Bon bah écoute, on est fiers de toi, Antoine.
Parce que... merci, merci. Non mais c'est quand même bizarre parce que, comme, encore une fois, comme tu le sais, mais nos trois auditeurs ne savent pas,
ouais,
c'est que pendant très longtemps, je me mettais des énormes caisses et je me droguais et je fumais genre beaucoup de joints et
ouais.
J'avais un mode de vie dégueulasse. Et quand j'ai tout arrêté, genre ça a été un énorme pavé dans la mare,
ouais,
genre,
ouais,
putain,
ouais,
genre waouh, Antoine arrête tout et tout machin, et ben, enfin, encore une fois, ça me mettait dans un rôle, dans un délire un peu à part,
ouais.
Et ben ça, ça me, et ben ça, tu vois, je m'en foutais, quoi. Ça, le truc d'avoir tout arrêté, c'était une démarche totalement consciente et saine, et je faisais ça pour moi, et du coup,
ouais, ouais, okay,
la manière de ce que les gens pouvaient en penser, je m'en foutais complètement.
Ouais.
Mais avec le sport, j'ai toujours eu ce rapport un peu chelou, en fait, quoi.
Ah ouais.
Ouais.
Et toi, t'as dû arrêter de manière un peu forcée, donc peut-être que t'as pas la sensation juste physique, enfin, t'as pas juste un manque physique en
si,
termes de,
si, si, bien sûr,
pas de sport ou quoi, je veux dire.
Si, 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 c'est, j'ai l'impression, des 2 ans où j'ai pas pu faire de sport quand je me suis niqué la nuque,
ouais,
des cervicales, il y avait des moments où j'avais vraiment l'impression que j'allais imploser, quoi.
Ouais, 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 ouais. Non, parce que, enfin, moi j'ai pas trop eu forcément ce truc, enfin, j'ai réfléchi là, ouais, non, je... Si, ça fait, enfin, c'est toujours marrant si les gens. En même temps, je crois que c'est parce que personne me dit waouh. En fait, je suis en train de me dire. En fait, personne me le dit. Non, mais je sens pas trop ce truc-là. Mais par contre, moi, le truc qui me tient, c'est le fait de comparer. Comment dire? Je veux dire, quand tu pars sur une base où tu fais genre zéro sport, t'as une vie normale. Je crois qu'on en a peut-être déjà parlé, je sais pas si c'est dans le podcast qu'on a jamais diffusé ou si c'est déjà diffusé.
On va dire
pas,
que c'était dans celui-là.
Peu importe. Mais t'as un truc, pour tout le monde, sportif ou pas, ou plutôt, surtout pour les gens qui font pas de sport, t'as ton état de base dans lequel tu te sens, quoi. Donc tu peux te sentir comme une merde ou tu peux te sentir bien, mais t'as un niveau, on va dire que t'es à 5. Tout autant à 5, mais ton 5, le 5 que tu ressens, c'est ta base, en fait. C'est-à-dire que tu, par rapport à ce niveau 5, ben un jour tu vas te sentir un peu mieux, un peu moins bien,
c'est ta moyenne.
C'est ta moyenne, quoi, c'est ta base. Et en fait, le fait d'avoir progressivement fait du sport et tout ça, bah t'élèves le truc et t'as un nouveau seuil de sensation, quoi, on va dire. Ce qui fait que j'imagine que si maintenant du jour au lendemain tu me donnes une pilule magique et je me sens dans le même corps dans lequel je me sentais il y a, je sais pas, 5 ans, je pense que je me sentirais trop mal, quoi. Genre je me sentirais genre genre je suis fatigué, ça va pas. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment une sensation, je pense, physique. Si j'arrête pour x ou y raison de faire un peu de sport, je vais le sentir, je vais me dire ok. Puis même à l'inverse, c'est le fait de constater à chaque fois, genre, tu te sens pas motivé pour faire un truc, t'as pas forcément envie d'aller au sport ou quoi, mais t'y vas parce que voilà, c'est l'habitude, il faut que t'y ailles, et puis t'y vas et t'es trop content parce qu'en fait, tu te sens trop bien quand tu l'as fait. Alors qu'avant, ton corps te disait non, ça va être chaud aujourd'hui, machin, et en fait, t'y vas et ça va hyper bien. Donc c'est vraiment de la sensation, et j'ai pas trop ce côté, mais je pense que c'est parce que j'éblouis personne, je suis pas aussi puissant que toi, Antoine.
Non, mais je pense que t'as pas, t'as... Non, mais je pense que surtout t'as pas le même complexe d'infériorité que moi, hein, c'est surtout ça, quoi.
Ouais, je sais pas, hein, franchement. Non, mais personne, mais ouais, attends, mais c'est quoi ces gens qui te sont éblouis par tes exploits? Bon, tu te la racontes, tu racontes que tu fais 45 minutes de je sais pas quoi.
Genre, non, mais j'en rajoute un petit peu sur la réaction des gens, mais il y avait quand même ce truc, genre, ouah, putain, j'aimerais trop être comme toi, mais je prends des MDMA, je suis qu'une merde. Genre, mais non, t'es pas qu'une merde, alors qu'intérieurement, je pensais que oui, cette personne était une merde. Il y a un peu de ça, tu vois.
Ouais. Non, mais bon, après, je pense que. Peut-être qu'on va aussi. Parce qu'on va parler un petit peu de tout, mais le fait de suivre les sports de combat, pour revenir un peu au. Parce que si vous suivez ce podcast, peut-être que parce que vous aimez le MMA.
J'espère, parce que sinon, pourquoi vous écoutez ça, vraiment.
Voilà, mais pour en revenir voilà, au sujet qu'on aborde principalement dans le podcast, le fait de suivre des sports, pas forcément des sports de combat, hein, même si tu suis du foot ou autre. Le fait de voir tout le temps des mecs au niveau et tout, je pense que ça c'est une sorte d'inspiration, quoi, de dire que des mecs qui vivent comme ça sans fou... Après, moi, j'ai pas de complexe, j'ai pas forcément envie de devenir un super athlète, enfin, genre, c'est, je cherche même pas le but, mais ouais, le fait d'être tout le temps comment dire entouré de ça, que ça fasse partie de ton environnement, forcément ça t'attire vers là. Comme à l'inverse, quand tu fais que partie d'un environnement festif, on se met des caisses, machin, forcément tu fais que ça aussi, quoi. Donc non, mais ça joue aussi, enfin, y a tout qui joue, l'environnement.
Ah oui, c'est clair, ouais. Ouais. Ouais.
Je pense que c'est ça aussi qui a fait que toi, tu me diras si je me trompe, hein, qui fait que toi t'es parti dans ce truc-là et que t'étais bien content d'être le mec sportif, c'est que justement t'étais dans un cadre. Je pense à cette époque-là, en tout cas, dans un cadre où justement t'avais pas dans ton environnement immédiat, t'avais pas forcément beaucoup d'exemples de mecs qui pouvaient t'inspirer, entre guillemets, à être en mode sportif, et tu l'as fait de toi-même, et je pense que tu t'en tires une fierté peut-être de là, de te dire je suis le mec à part qui a fait son truc en mode solo.
Oui, un peu ça aussi, ouais. Ouais, mais c'est vrai que, en fait, me mettre des caisses, me droguer, picoler, tout ça. Ça faisait quand même quelques temps déjà que je commençais à saturer et que je faisais ça plus par habitude qu'autre chose.
Ouais.
Et ça a été une porte de sortie, en fait, quoi. Faire du sport, ça a été un début d'accès à un mode de vie sain, même si c'était l'équilibre était très très fragile, en fait, quoi.
Ouais, ouais.
Mais ça a été début vers vers des habitudes plus positives, en fait, tout simplement. Et mais tu vois, c'est marrant parce que justement depuis la semaine dernière ou deux semaines, je sais plus. J'ai repris la weed, donc forcément je perds un peu je perds un peu mes repères dans le temps. Non, mais je me sentais prêt à reconsommer à nouveau, comme on en a parlé.
Ouais.
Du coup, j'ai fait comme tout le monde, comme tout mec moderne, je me suis acheté un vaporisateur.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est une manière assez cool de consommer, quoi. C'est il y a pas de coup de marteau derrière la tête que tu peux avoir en fumant un énorme joint. Et c'est une expérience que je regrette pas. Mais du coup, c'est vrai que surtout les premières fois où j'ai commencé à utiliser le vaporisateur, j'étais vraiment super défoncé, quoi. En mode comme Odyssée, comme Servietsky dans South Park, quoi, tu vois, genre putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Je suis super foncé, c'est trop drôle, qu'est-ce qui se passe. Mais il y avait quand même une partie de moi-même où j'étais là, genre putain, je suis quand même une bonne loc là tout de suite. C'est pas que c'est mal ou pas, mais enfin je suis atomisé. Je peux absolument rien faire à part juste être défoncé, quoi.
Ouais.
Je me dis putain, comment par le passé j'ai pu m'imposer ça tous les jours en permanence, quoi. Et pour revenir à ton histoire de si on mettait une pilule pour revenir en arrière, je me tirais une balle dans la tête.
Ouais. Non, mais je pense que c'est par rapport à ce que je racontais avec le niveau 5, avec cet exemple bien pourri d'ailleurs de niveau 5.
Non, c'était pas mal.
C'est juste que à l'époque t'avais pas d'autres comparatifs, donc forcément c'était ton état de base et tu faisais ça. Voilà, enfin ça te perturbait pas plus que ça à l'époque, quoi. Et le fait d'avoir fait un chemin comme ça. Et le fait que tu dis que tu te sentais prêt à reconsommer, quoi, justement, c'est parce que je pense que maintenant tu sais un peu quels sont tes objectifs, dans le sens où je pense pas que maintenant parce que tu vas prendre la weed ou quoi, ou même si tu fumais un gros joint maintenant, quoi, je pense pas que ce soit ça qui va faire que maintenant tu vas plus faire de sport, tu vas tout arrêter.
Non, c'est sûr.
Parce que t'as cette hygiène de vie qui a changé, quoi.
Oui, et puis c'est sûr, et puis de toute façon J'ai quand même réglé une grande partie des problèmes perso qui me minaient et qui me poussaient un peu à la consommation. Ouais. Enfin, les choses sont clairement différentes, quoi. J'ai tout arrêté, j'ai été sobre pendant 4 ans et demi, quoi. J'ai touché à rien pendant 4 ans et demi, donc. Et pendant ces 4 ans et demi, ça m'a permis de me reconstruire, en fait. De reprendre pied, de me remettre à taffer, de reprendre contact avec mes potes, de ressortir, de sortir avec des meufs, enfin voilà, de faire tous les trucs que sur la fin de ma consommation j'avais perdu, en fait. Que j'osais plus faire, tout simplement, quoi.
Et t'as pas ce petit je vais pas dire un petit démon, quoi, mais je veux dire quand t'as tiré ta première latte, enfin je sais pas comment ça s'appelle quand c'est un vaporisateur, parce que c'est pas une latte, c'est un autre terme.
Moi j'appelle ça une douille de vapeur.
Une douille de vapeur. Ok. Quand t'as tiré sur ta première douille de vapeur, t'as payé ce petit démon de te dire, je sais pas comment dire, tu vois, la weed c'est un côté un peu, si tu pars en batterie pourquoi, t'as un côté un peu parano, ça peut arriver. Et t'as pas eu justement cette petite palpitation de genre j'espère que ça va bien se passer, ou t'étais en confiance totale, genre vas-y je vais me faire plaisir, c'est cool, quoi.
Je dirais pas que j'étais en confiance totale, mais je le sentais bien. Et puis je me disais, même si j'ai un bad trip, déjà je vais pas m'envoyer un truc, une quantité énorme tout de suite. Et même si j'ai un bad trip, je sais pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je sentais que même si j'allais bader, j'allais pas perdre pied, quoi. Surtout qu'en plus, le fait d'avoir commencé la méditation, ça fait presque un an que je médite. Ça permet quand même de se renforcer mentalement, quoi. Ça permet de se détacher des moments où tu bades, en fait, et de te calmer.
Ouais, d'ailleurs, on en a jamais trop parlé, enfin, vite fait. La méditation, tu fais ça quoi, tous les jours?
Quasiment tous les jours.
Parce que j'y connais rien.
Ouais.
J'en ai jamais fait. Enfin, j'ai déjà testé vite fait, mais jamais vraiment sérieusement. Est-ce que tu peux parler de la méditation, Antoine? ton chemin vers la méditation.
Alors.
Comment t'y es arrivé? Ta progression, voilà.
À la base, quand j'ai arrêté de fumer. Écoute, on va jouer à la carte.
Là, je vais mettre une petite musique en éditant le truc. Des petits arpèges. Je te laisse reprendre la parole.
Ça me met trop en pression, quoi. Bref, il va falloir que tu trouves des arpèges mortels, parce que on va jouer à la carte de la transparence plus totale. Ouais. Parce que sinon, bon, après, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein.
Ouais.
Mais pour arrêter de fumer, parce que c'était un vrai problème dans ma vie.
Ouais.
Et sur les derniers mois de ma consommation, enfin, j'étais tout seul chez moi, j'étais vraiment en train de péter les plombs, quoi. Enfin, j'avais un vrai problème.
Ouais.
Et j'arrivais pas à m'arrêter, c'était pas possible.
Toi, tu fumais avec du tabac aussi.
Ouais, je roulais des énormes joints, je mettais une clope entière dedans et je fumais du shit de mauvaise qualité parce que j'avais pas de thune, enfin.
Okay.
C'était d'enfer. Et en fait, pour arrêter, un jour j'ai un peu pété les plombs, j'en ai parlé avec mon père, et mon père a été très bien, en fait, il m'a calmé, il m'a dit ok, on va voir les options qui s'offrent à nous, en fait.
Ouais.
Parce que tu peux te faire aider pour ça. Et on a vu qu'en fait, il y avait un service addictologie à l'hôpital Bichat, pas très loin de là où j'habite. Et ils avaient un groupe spécial de cannabis. Ils avaient un groupe pour tout, okay, ouais, pour toutes les addictions, que ce soit la bouffe, la coke, l'alcool, même la clope. Mais ils en avaient un spécialement pour le cannabis.
Okay.
Et en fait, j'ai commencé à aller là-bas. Ça a été extrêmement efficace. Ça m'a vachement aidé. Et dans ce groupe auquel je participais, il y avait des cours de relaxation.
C'est des séances de groupe, en fait, c'est ça?
C'était, ouais, t'avais une séance de...
Tu discutes, t'échanges.
Tu discutes, voilà, ouais, okay, sur tes problèmes, sur ta vie, sur ton addiction.
Ouais.
Et après ça, on avait de la relaxation. Et la relaxation, c'est tout con, en fait, on était allongé sur le dos. Et la docteur qui assurait le cours, en fait, nous parlait tout doucement, on disait qu'il fallait qu'on se concentre sur notre respiration, qu'on se laisse aller.
Ouais.
Et ça m'a vachement aidé, parce que forcément, j'étais dans un état de stress absolument énorme. Et après ça, ça m'a vachement parlé, cette histoire de relaxation. Et c'est là où je me suis rappelé qu'en fait, il y avait pas mal de combattants et même de sportifs professionnels qui pratiquaient la méditation.
Ouais.
Notamment John Jones. Et moi, John Jones, moi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, c'était ce calme, cette zénitude totale qu'il dégageait quand il était dans la cage, quoi.
Ouais, ouais.
Et genre, putain, mais ce mec, quoi, qui a une pression énorme sur les épaules, il a l'air d'être complètement relax, quoi. Comment il fait, quoi. Alors que moi, je pouvais pas sortir de chez moi sans péter les plombs. C'est quoi son secret, quoi. Et j'ai vu dans une interview qui vantait les mérites de la méditation.
Ok.
Bon, c'était avant qu'il rentre dans la bagnole d'une femme enceinte et qu'il se barre en courant, mais c'est une autre histoire. Et du coup, bah, je me suis renseigné, mais je me suis pas mis tout de suite. Hein. J'ai glané quelques informations, mais voilà, j'ai recommencé à travailler. Enfin, j'ai commencé à reprendre ma vie en main. Donc voilà, c'était pas non plus sûrement ma priorité numéro une. Et en fait, en fin d'année dernière, suite à une rupture d'une relation assez courte mais assez badante, je me suis aperçu que quand même j'avais vachement de mal à pas me laisser déborder par mes émotions. Okay. Et je me suis dit peut-être que je vais me tourner vers la méditation, peut-être que ça pourra m'aider. Et en me renseignant sur Google, hein, comme tout le monde, je suis tombé sur cette histoire de méditation de pleine conscience, où en fait, par un travail avec ta respiration, tu peux te détacher de tes pensées et contrôler tes émotions. Et je me suis dit, putain, c'est exactement le truc qu'il me faut.
Ouais.
Et j'ai commencé à me rendre dans des ateliers sur Paris. C'était 4 cours de 2 heures.
Ouais.
Donc c'était un peu chelou, surtout la première fois où tu médites en groupe avec plein de gens que tu connais pas. Tu dois fermer les yeux, respirer, et t'as d'autres gens que tu connais pas qui font pareil. Enfin, sûrement c'est un peu bizarre, mais après, bon, ça passe.
Ouais.
Et à côté de ça, je me suis dit, ok, bon, bah, je vais commencer à méditer tout seul dans mon coin. Sachant que ceux qui écoutent, si ça les intéresse, sur YouTube, il y a plein de méditations guidées. Vous tapez méditation de pleine conscience, il y a plein d'exercices.
Ouais.
Et en plus, c'est très simple, ça demande juste de s'asseoir, de fermer les yeux, de respirer, d'écouter ce qu'on vous dit. Quoi. C'est vraiment pas compliqué, ça va entre 10, 20, 30 minutes grand maximum.
Ouais.
Et puis on pratique. Plus effectivement, on peut se calmer tout simplement, on peut se détacher de ses pensées et surtout se prendre conscience qu'on est énervé, qu'on est stressé. Parce que moi, j'étais à un stade où quand j'étais vénère ou quand j'étais stressé, je m'en rendais même plus compte en fait. J'intériorisais totalement en fait, si tu veux.
Ce que j'avais demandé, parce que le délire de pleine conscience, c'est aussi le fait, parce que voilà, je me demandais si c'était un truc où tu dirais ah, putain là, en ce moment je suis stressé, en ce moment je suis énervé, je vais méditer pour que ça passe, ou c'était plutôt entre guillemets l'inverse, où tu méditais pour révéler ce qui allait pas, quoi, pour prendre conscience de.
C'est un peu ça en fait, quoi. Ouais. C'est effectivement tu prends conscience de qu'est-ce qui se passe chez toi à ce moment précis en fait.
Ok, ouais.
Et je me suis même aperçu, je me suis même aperçu qu'il y avait certaines douleurs physiques, avec lesquelles j'avais tellement fait avec que j'avais oublié en fait, et qui, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, en fait j'ai mal au dos à cet endroit-là, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai tendance à m'énerver pour tel truc à la con, et je m'en rendais même pas compte avant. Et en fait, ça permet en fait de faire une espèce de dresser une carte en fait un peu de tes émotions.
Ok, ouais.
Et je me suis aperçu aussi que j'avais tendance, quand je marchais dans la rue, à juste être complètement déconnecté, à penser à plein de trucs à la con en fait.
Ouais.
À pas du tout faire attention à ce qui se passait.
Ouais.
Et ça permet vraiment de, premièrement, de faire un état des lieux de ce qui se passe intérieurement et même physiquement.
Ouais.
Et deuxièmement, de revenir à l'instant présent et te dire, ok, je suis là, ici et maintenant, je vais profiter de ce qui se passe, quoi.
Okay,
des fois, ça peut être juste un trajet en vélo pour aller au boulot.
Ouais.
Il fait beau, c'est une belle journée. Je prends conscience de ça, j'en profite, tu vois.
Ouais. Non, mais c'est marrant ce que tu dis. Enfin, je rebondis juste sur le trajet en vélo et, enfin, parce que j'ai pas fait de méditation. Après, c'est pas je connais pas le sujet de manière approfondie, mais je veux dire, j'ai toujours aimé un peu faire gaffe, essayer de faire attention à ce que je ressens, ce que je fais, des trucs comme ça. Et un truc que j'ai remarqué, et après c'est normal, hein, j'ai vu que c'était presque scientifiquement logique, ça a été étudié, quoi. Ton trajet pour aller au taf, c'est tellement une habitude et une routine que souvent tu te déconnectes, quoi, t'en souviens pas, quoi, c'est normal. Mais je rebondis sur ça parce que tu parlais du trajet en vélo. Moi, je vais au boulot en vélo. Et il y a des fois où je me rendais compte en arrivant chez moi ou à l'inverse en arrivant au boulot, que j'étais arrivé et j'ai un trajet assez long. J'ai 45 minutes voire 50 minutes de vélo. Et il y a des matins où j'arrive au boulot et je suis là, je me réveille en fait. Et je me dis, mais sur la route, il s'est passé quoi là?
Je vois très bien ce que tu veux dire.
Enfin, après, je pense que forcément, instinctivement, tu fais gaffe un peu à tout. Et puis après, bon, je parle du vélo, mais je pense arriver à tout le monde en voiture, en métro, ce que tu veux. Mais des fois, je me rendais compte d'arriver au boulot et de faire ah ouais, ok, je suis arrivé, mais en fait, si je vais me souvenir de mon trajet.
Il y a une espèce de blackout en fait. Quoi.
Aucune idée. Vraiment. Ouais. Et des fois, j'y pensais vraiment, j'ai vraiment aucune idée. Ouais,
moi, je trouve ça effrayant.
Je suis parti de chez moi, je me souviens être arrivé au boulot, mais bon, le trajet, aucune idée. Quoi.
Ouais.
Et je me dis que peut-être que ce truc de pleine conscience, après bon c'est un exemple un peu bidon, mais ce truc de pleine conscience c'est aussi peut-être comme tu dis, t'as à vélo, profiter de l'instant présent, un peu prendre conscience de ce que tu fais, je vais me renseigner là-dessus, tu m'as convaincu.
Mais en plus je veux dire, c'est extrêmement simple à faire, ça demande juste de la pratique, c'est tout. C'est quand même pas évident à la base d'essayer de pas rentrer dans tes pensées, de pas essayer de te laisser submerger, c'est un truc qui se travaille, quoi.
Ouais.
Mais c'est, enfin moi je conseille vraiment, c'est vraiment rémunérateur. Et même des trucs à la con, genre passer récupérer un truc, j'en sais rien, passer par exemple, il faut que je passe récupérer un truc chez ma mère par exemple.
Ouais.
J'avais tendance, c'est ma mère, tu vois, extrêmement souvent j'avais tendance à faire ça au radar quoi.
Ouais.
Maintenant quand je fais l'effort d'être dans l'instant présent et pas de dire genre oui oui maman, oui maman, prends mon truc et de me casser, juste je me rends compte que je suis, pardon, que je peux... que en fait je peux avoir je peux saisir cette occasion pour passer un moment avec, c'est con à dire, mais passer un vrai moment avec ma mère, avoir une vraie conversation où, et ça me permet d'apprendre un truc, genre j'ai pu récemment j'ai pu apprendre des trucs sur l'histoire de la famille à laquelle j'avais jamais pensé, enfin et ça permet vraiment de saisir profiter de chaque moment en fait.
Non mais parce qu'on il y a plein de choses qu'on fait un peu en pilote automatique quoi, au final, enfin,
voilà.
tout enfin à peu près tout quoi. Tu vois, bah, je passe des journées au boulot, genre tu me demandes de te raconter ma journée de boulot, je sais pas, c'est pas passé grand chose, c'était une journée comme les autres. Mais en tout cas ouais, je vois la démarche et je pense que ça doit être assez, enfin en tout cas t'as l'air de dire que ça fonctionne bien et que c'est un bon truc. Et tu fais ça à quelle fréquence quoi à peu près?
Je fais ça plusieurs fois par semaine, j'essaye de faire ça au moins 4-5 fois.
Et t'as des préférences matin, après-midi, soir?
En général je fais ça le soir.
Ouais.
En semaine, quand je travaille.
Ouais.
Quand je rentre du boulot, après avoir pris ma douche, je fais ça histoire de quand je suis bien tranquille. Le week-end, ça peut être en journée, ça dépend. Après, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle sur quand, où, comment. C'est juste. Après, ce qui est plus difficile, mais ce qui est bien à faire aussi, c'est d'essayer d'appliquer ce principe de pleine conscience, par exemple, quand tu manges. C'est-à-dire ne pas. Par exemple, au taf, quand je ramène ma gamelle, avant, j'avais tendance à regarder mon portable pendant que je bouffais, quoi. Maintenant, j'essaie de profiter de ma gamelle, quoi. Et je me suis d'ailleurs aperçu que j'avais tendance à faire des trucs à l'arrache et que des fois, c'était juste pas bon, quoi. Juste, je mangeais pour manger parce que j'avais faim. C'est genre, putain, mais j'aurais pu faire un effort là-dessus, quoi. Sur ma salade, tu vois. J'ai vraiment fait des trucs minimum, quoi. Alors que maintenant, j'essaie d'assaisonner un petit peu, tu vois. C'est con. Enfin, voilà, quoi. Ça permet un peu de se réveiller. C'est quand même pas négligeable.
Ouais, mais je pense que le titre de ce podcast, ça va être l'éveil d'Antoine.
On peut appeler ça comme ça, ouais. Non, c'est... c'est en plus, je me dis... Enfin, c'est truc à la con, quoi, mais... je vais pas dire avec tout ce qui se passe dans le monde, mais avec... l'impact que peut avoir l'actualité sur les gens, t'as l'impression que des fois les gens sont complètement
déconnectés,
non consumés en fait par ça quoi, mais qui prennent pas le temps de savoir ce qui se passe chez eux. C'est vraiment du gros dialogue de hippie, mais quand même et même en eux quoi. Et des fois tu te rends compte que si tu c'est plus, enfin moi je trouve ça parfois plus intéressant de prendre le temps de me poser, de souffler, de voir ce qui s'est passé dans ma tête aujourd'hui et de et pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, de faire ce travail introspectif plutôt que de me prendre la tête sur des événements auxquels j'ai absolument aucune influence.
Ok, je vois ce que tu veux dire. Non mais franchement c'est t'as poussé le truc jusqu'à, je sais pas, choper des bouquins ou des trucs là-dessus.
Ouais, j'ai 2-3 bouquins. Il y a plein de bouquins sur
des recommandations
sur la pleine conscience.
Les 5 auditeurs. Non, 3.
3. Restons réalistes. Regardez des bouquins et même sur YouTube des interviews ou des exercices de Christophe André. C'est un peu le maître en la matière, c'est un peu le mec qui a popularisé ça en France. Il y a même des petits, même pas nécessairement par lui, mais des petits bouquins d'introduction sur ça qui suffisent largement. Et puis même s'il y a des ateliers à côté de chez vous, n'hésitez pas à faire ça, hein, franchement ça vaut le coup.
Ouais, et c'est un truc que j'ai relevé aussi sur tous les trucs dont t'as parlé, que ce soit le truc d'addictologie, enfin ça s'appelle comme ça, le truc de méditation, yoga, c'est vachement des trucs en groupe.
Ouais.
Tu vois, et après, ouais, je sais pas, chacun a sa façon d'aborder les trucs. Moi, je suis pas du tout réfractaire, mais instinctivement, j'aurais du mal. Tu vois, à me retrouver en groupe sur un type d'activité comme ça. Après, quand c'est des inconnus, c'est plus simple, je pense. Mais de se retrouver en groupe, partager les trucs. Est-ce que ça a été un truc qui a été relativement simple ou est-ce que c'était genre assez compliqué au début, genre de t'ouvrir aux autres, etc.
Après,
comment ça se passe? Moi, j'y connais rien.
Après, c'est quand même. Enfin, t'as cité deux exemples qui sont bien différents, quoi. Entre des séances de groupe au service addictologie et la méditation, c'est pas tout à fait pareil. Quand j'étais en désintox, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, ça me faisait énormément de bien, quoi. Parce que je me rendais compte que j'étais pas tout seul, parce que un truc parmi toutes les angoisses, toutes les merdes que ma consommation amenait, c'était une espèce de... J'avais vraiment honte de ma situation, en fait, honte de mon état, honte de mon addiction. J'étais là, genre putain, mais je suis vraiment qu'une merde à être accro à ça, alors qu'il y a plein de gens dans mon entourage qui fument et ça leur pose pas de soucis. Ouais. Je suis qu'une merde, je suis qu'une merde, je suis qu'une merde. C'était un peu mon mantra, tu vois, je suis qu'une merde. C'est trop la honte. Et le fait du temps de me retrouver entouré de gens qui étaient dans ma situation, c'était un soulagement au contraire.
Ouais, ouais, ouais.
Je me suis aperçu que j'étais pas tout seul et que j'avais pas à avoir honte déjà, premièrement, quoi. Et non, donc du coup, non, ça me posait pas de soucis. Au contraire, c'était un soulagement énorme.
Ouais, ouais.
Pour la méditation, c'était un peu plus particulier parce qu'encore une fois, c'est un truc vachement introspectif.
Ouais.
Et t'es entouré de gens que tu connais pas du tout et tu fermes les yeux et tu respires. Et c'est un peu bizarre, quoi, tu vois.
Ouais.
Mais ça m'a pas dérangé plus que ça, quoi. Après, moi, c'est vrai que je suis un mec assez timide, un peu ours à la base.
Ouais.
Mais si c'est une étape nécessaire pour atteindre mon objectif, c'est pas ça qui va m'arrêter.
Ok, ok. Ah, mais en tout cas, je vais me renseigner sur la méditation pleine conscience.
Ouais, ouais, je te conseille. Ça, quoi. Je te conseille.
Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres points en termes d'introspection que tu veux aborder? Parce que c'est l'éveil d'Antoine aujourd'hui. Hein.
À quand l'éveil de Valentin?
Ouais, bah écoute, ce sera pour une prochaine émission peut-être. Hein.
Ça marche.
On va pas tout mettre d'un coup, tu vois.
Donc pardon, ta question c'était quoi?
Est-ce que t'as d'autres, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux aborder sur ton éveil mental, physique
Bah écoute, le simple fait d'avoir arrêté toute drogue et toute consommation d'alcool, et d'avoir juste repris contact avec la vie active et de me remettre au taf, parce que avant ça faisait 2 ans que j'étais au chômage, donc j'avais pas travaillé.
Ouais.
Et c'était horrible, quoi. Enfin, c'est 2 ans au chômage, c'est un truc que je recommande à personne.
Ouais, ouais.
Même au pire des branleurs, je pense que ils pèteraient les plombs.
Ouais.
Le simple fait d'avoir repris contact avec la vie active, ça m'a vachement apporté, quoi. Juste d'être en contact avec ta société, en fait.
Ouais.
C'était déjà énorme, parce que ça a permis, en fait, de me retrouver, de me resituer, de me dire genre ah ouais, en fait c'est vrai que j'avais quand même un bon contact avec les gens. Je peux être quand je travaille en équipe ou avec mes collègues, je suis quelqu'un qui est en général apprécié.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'ai tel défaut, j'ai tendance à prendre des choses trop mal, ou j'ai tendance à
confronter aux autres, ça te fait te rendre compte de ce qui a été tes défauts, alors quand t'es tout seul,
ouais,
je pense qu'à tes défauts.
Et... ouais, c'est ça. Tu bades.
Ouais.
Ça déjà c'était nécessaire, mais ça peut paraître complètement, ça peut paraître être d'une évidence totale pour ceux qui nous écoutent, mais moi j'ai dû refaire tout ce travail.
Mais tu vois, je pense qu'après un truc qui est peut-être paradoxal, c'est que c'est une observation un peu à la va-vite. Je suis pas du tout un mec, je suis pas sociologue ou quoi, mais je me rends compte que les gens, on va dire, tu vois, genre si je prends un exemple un peu cours d'école, quoi, t'as les gamins cool, les mecs en stress, les victimes, enfin tous les cas différents, quoi, et je trouve que les gens qui vont bien,
j'aime bien les trois catégories, quoi, les mecs cool, les mecs en stress et les victimes.
Ouais, bon, tu m'as compris.
Non, mais ouais, ouais.
Mais je pense que les gens qui vont bien, quoi, qui ont l'air d'aller bien au jour le jour, bah je me rends compte que c'est des gens, au final, quand tu grandis, après je caricature vachement, hein, je prends un exemple vraiment très généraliste, mais je trouve que c'est des gens souvent qui n'ont pas forcément eu de raison, du coup, mais qui n'ont pas ce recul forcément que toi tu peux avoir parce que t'as fait un vrai chemin sur toi-même, mais des gens qui n'ont pas de recul sur eux-mêmes, qui ont cette vision d'eux comme étant des gens cool, tout simplement, mais qui se rendent pas compte justement de leur... qui pensent peut-être qu'à leurs qualités ou qui pensent pas à leurs défauts, qui se remettent pas en question, en fait.
Mmh.
Moi j'en croise assez souvent à mon boulot des gens qui sont un peu genre... qui se prennent un peu pour je sais pas quoi, et je trouve ça assez intéressant, ce paradoxe entre justement ces gens qui de l'extérieur ont cette image de winner, quoi, on va dire, mais qui d'un côté ont pas du tout de vraie conscience d'eux-mêmes, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, enfin qui se posent pas beaucoup de questions.
Qui se posent pas beaucoup de questions.
Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que ça, y en a, ça c'est clair qu'il y en a partout, hein.
Est-ce que tu te sens supérieur à ces gens?
Oui. Non, mais en fait, pendant un moment, je pense que honnêtement, j'aurais pu vraiment me sentir supérieur. Maintenant, j'en ai juste rien à foutre. En
oui,
fait.
Non, mais...
ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Et puis, il y a aussi, c'est marrant parce que maintenant, je retrouve des profils au taf ou en société,
ouais,
de gens qui étaient un peu comme moi avant, dans le sens qui sont super angoissés, qui sont limite paranoïaques.
Ouais.
Et. Je suis genre putain, je suis quand même bien content de m'être sorti de ça, quoi.
Bah,
même si des fois je suis pas encore sorti de ça à 100%, je suis genre putain. Et des gens qui ont 35 ans, qui ont des vies de famille,
ouais,
et tout. Je dis genre putain, mais comment ils font pour pas péter les plombs, quoi.
Non, mais après un truc aussi pour rebondir dessus, une réflexion que je me fais souvent, c'est vachement quoi du langage de hippie, ouais mec machin, mais c'est que comment dire, quand j'observe les gens adultes responsables qui sont autour de moi, des gens plus âgés que moi, quand même la quarantaine quoi, qui sont voilà, qui ont une vie établie, je me rends compte souvent qu'en fait on est tous des gamins et que enfin en gros personne sait vraiment ce qu'ils font là quoi. Enfin, tout le monde est un peu là à improviser et essayer de gérer les choses comme ils peuvent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comment dire, beaucoup de gens qui, pas qui font semblant, mais ouais, hein, quelque part qui font un peu semblant de savoir où ils vont, mais en fait quand tu te rends compte comment ils fonctionnent, tu te rends compte que tout le monde est un petit peu perdu et qu'il y a plein de gens, parce qu'en gros juste pour dire, c'est que tu disais ouais, t'étais content d'avoir trouvé un groupe de gens qui partageaient les mêmes angoisses que t'as pu avoir pour te rendre compte que t'étais pas tout seul, mais je pense que ces gens là si tu les avais croisés sur un milieu de travail comme ça dans la vie de tous les jours, tu saurais pas forcément qu'ils aient tous ces trucs là, et en fait je me rends compte qu'en fait tous ces trucs là c'est partagé par plein de gens, ouais. Y a plein de gens qui savent pas du tout où ils en sont, mais t'es obligé de faire semblant, tu vas pas être là aller devant des gens que tu connais pas et dire ouais je sais pas ce que je fais là, je me sens mal, enfin
c'est sûr. Donc, non, il faut un espace, il faut un contexte pour
ouais,
ça
ouais. Non mais c'est, je trouve ça fou quoi.
Ouais, ouais bah ouais, c'est clair. Mais après il y a ceux qui vont pas se poser de questions par rapport à ça, qui vont avancer quoi, qui vont ouais. dire bon bah effectivement je sais pas ce que je fous là, mais bah je vais quand même continuer à bouger quoi.
Ouais.
Et moi ce que j'aime bien c'est je suis assez curieux. Mmh. Et j'aime bien quand même quand les gens viennent se confier et me racontent un peu leur vie.
Ouais.
Après ils sont pas obligés de rentrer dans les détails les plus intimes, mais j'aime bien parce qu'en fait ça permet toujours de m'apercevoir que bah il y a des jeux, enfin qu'on a tous morflé de manière différente, mais que la plupart des gens ont quand même bien ramassé d'une manière ou d'une autre.
Ouais.
Et de voir comment ils réagissent par rapport à ça on va dire, si je devais établir un pourcentage, on va dire 60 à 70% du temps, c'est quand même des résultats assez positifs.
Ouais.
Après il y a des gens qui ont eu qui ont des épreuves plus ou moins battantes et qui se comportent comme des connards.
Ouais.
Mais bon, cela ne m'intéresse pas. Mais c'est cool, je trouve ça quand même de retrouver ça dans la vie de tous les jours.
Ouais. Et tu dis les gens qui t'intéressent pas, c'est quoi ? C'est juste quoi ? C'est dans quel sens ?
C'est après il y a plein de facteurs différents.
Ouais.
Y a plein de gens qui m'intéressent pas.
Ouais.
Mais j'ai eu tellement de relations pourries amicales comme sentimentales voire même familiales.
Ouais.
Par le passé que j'ai développé un radar à tête de nœud et que maintenant des gens qui vont poser problème si tu entames une relation de n'importe quel rapport avec eux.
Ouais.
Franchement j'ai quand même tendance à bien les sentir, et ces gens là m'intéressent pas quoi, j'ai envie de
tendance à les zapper facilement quoi.
Ouais.
Ah, j'ai pas d'exemple précis en tête de, tu vois, enfin, s'il y a des gens, c'est plus peut-être au boulot, des gens que je croise. Il n'y a pas de gens que j'ai forcément envie de zapper, mais moi, c'est pas forcément un défaut. Mais j'ai tendance à me dire. Comment dire, que. Oh, ouais, c'est un peu débile de dire ça, mais qu'on est un peu tous le connard d'un autre, quoi. En gros, si tu veux, c'est que. Chaque personne que je croise, même le mec le pire des cons que je peux voir, j'ai toujours pas une sorte d'empathie, mais un peu. Je me dis. Ouais, bon, lui, c'est un gros con, c'est sûr. Mais peut-être que si j'avais vécu sa vie, ou par rapport à ses expériences, à la façon dont il voit les choses lui, en gros je me remets toujours en question, et peut-être que c'est un problème de confiance en moi limite à ce niveau-là, je sais pas, mais je me pose toujours la question de me dire est-ce que forcément moi, ma façon de voir les choses, pourquoi elle serait plus valable que la sienne, même si je suis pas du tout d'accord avec lui, et c'est une certitude que le mec que j'ai en face de moi c'est un bouffon. J'ai toujours dans un coin de ma tête, je me dis ah mais... bah en fait peut-être que lui, par rapport à comment il a grandi et les expériences qu'il a vécues, bah pour lui, dans sa logique à lui, il pense faire les choses correctement. Et pour lui, bah c'est moi le connard quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai toujours ce truc là, et peut-être qu'il faudrait que je fasse de la méditation pour explorer tout ça quoi. Mais moi, je me pose toujours cette question là quoi. Alors, quand je tombe sur les pires des bouffons, je me dis mais on va pas trop se calculer. Par contre, mais pourquoi t'es autant un bouffon ? Parce qu'il y a des choses pour moi qui sont fondamentales. L'autre fois, on parlait de quoi ? D'homophobie. On parle de gens qui sont ouvertement homophobes, tranquilles, quoi, genre normal. Et je trouve ça ouf. Mais malgré le fait que je trouve ça ouf et que, genre, t'es prêt à mettre un coup de tête quand t'entends des propos, des fois, t'hallucines. Mais justement, je me dis, pour que ça sorte aussi naturellement chez certaines personnes que je croise, mais sur le milieu du boulot, on c'est pas genre des mecs dans un bar qui sont bourrés, qui lâchent les conneries, c'est des mecs au boulot qui font ah bah moi ça je peux pas et tout, tu fais putain. Pour que le mec il sorte ça aussi naturellement, c'est que dans sa tête à lui, il pense que c'est normal, Et je me demande d'où ça vient, en fait. Je me pose vraiment la question, mais comment ça se fait que moi ça me choque, mais tout de suite pour moi c'est évident, je pourrais même pas lui expliquer pourquoi c'est pas correct ce qu'il dit, parce que c'est évident pour moi, et je me pose sur la question, mais comment ça se fait que tu peux avoir eu un chemin aussi différent pour en arriver à avoir des idées ou une façon de voir les choses qui est complètement à l'opposé, quoi. Enfin, je vois, je sais pas, c'est...
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Ça me perturbe pas mal, enfin ça me perturbe, j'y pense de temps en temps, quoi, je me dis putain, mais comment c'est possible d'avoir des gens qui pensent, enfin ouais.
Ouais, mais c'est, tu vois, c'est marrant parce que à mon ancien boulot, j'avais vachement sympathisé avec le mec qui était mon responsable à ce moment-là. Ouais. Et c'était un mec qui était qui avait à peu près mon âge, mais qui était radicalement différent de moi, quoi.
Ouais.
Il avait ouais, c'est ça, il avait genre 28-29. Le mec avait déjà deux enfants. Ouais. En plus de ça, moi j'ai grandi à Paris, lui il a grandi dans la Cambrousse, dans l'Oise.
Ouais.
Donc voilà, c'est le genre de mec qui avait une crétogène, qui portait des jeans Ripley, enfin un peu beauf, quoi, tu vois. Deux enfants, voilà.
Avec... Attends, mais imagine si un auditeur qui écoute le podcast, qui est... avec du gel dans les cheveux.
Et du jean Ripley qui habite dans l'Oise. Non, mais tu veux... auditeur en question, écoute-moi, tu vas voir, justement, c'est là que ça devient intéressant. Non, non. Bref, donc voilà, je veux dire, le mec s'appelle Kevin, sa copine de l'époque s'appelait Sandy, tu vois. En tant que parisien, forcément, ça me fait doucement rigoler, à la base, en tant que connard ironique et cynique. Et quand il m'a dit, voilà, qu'il avait deux enfants à son âge, pour moi, c'est, dans ma tête, genre, putain, c'était confession intime tellement vraie, quoi, tu vois, c'était genre, des gros cassos et tout, machin. Ouais. Et du coup, ce mec, j'ai appris à connaître, on a fini par devenir potes.
Ouais.
Et c'est un mec, lui, je pense qu'il s'en est pas rendu compte, j'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Mais il y a eu pas mal d'impact sur moi parce que on avait deux trajectoires totalement différentes.
Ouais.
Genre moi, genre jeune mec de la ville qui aimait bien faire la fête et qui est revenu de tout ça avec un parcours vachement introspectif, nanana. Ouais. Et lui juste qui a fait sa vie peinard et qui a voulu des enfants très jeunes et qui savait exactement ce qu'il voulait.
Ouais.
Et je voyais au taf, et le mec était plus jeune que la plupart des employés. Il était déjà responsable parce qu'il était extrêmement mature, il était extrêmement sûr de lui, mais pas du tout un connard, quoi, tu vois.
Mm.
C'était juste un mec tranquille, bien dans ses pompes et qui menait très bien sa barque. Et et pourtant à côté de... et alors qu'il avait tous les attributs qui, pour moi, de mon point de vue de petit parigot, me paraissaient pourraves.
Ouais, ouais, ouais.
Et pourtant je me suis dit, genre, putain, ce mec gère vraiment, quoi, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup ça m'a vraiment...
Ça remet en question tes préjugés, mais ouais, t'es...
Si, si, ça remet en question les préjugés, quoi. Et ouais, ça... Et certaines de mes connaissances... enfin, ça a remis vraiment plein de choses en question, quoi. Mmh. Et je me suis dit, genre, putain, ce mec qui est tranquille et quand il y a un souci, il le règle tranquillement, qui pète pas les plombs, qui prend pas tout le monde autour de lui et en leur mettant la tête dedans. Genre, j'ai vachement de respect pour ce mec parce que moi, pendant longtemps, j'étais entouré de gens vachement angoissés et quand ça allait pas, il fallait qu'il fasse morfler tout le monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Si, je vois.
Et alors après, je suis allé un peu plus loin, j'ai fait dans sociologique, je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il vient d'un environnement beaucoup plus calme et il a temps de réfléchir à ses problèmes, alors que nous, on vient d'un vide et que c'est un peu le bordel partout où on va, enfin, je sais pas, tu vois, mais.
Non, j'en sais rien.
C'est, enfin, pour reprendre ton exemple, mais dans un sens positif, moi ça m'a fait ça, en fait, quoi. Un mec avec une trajectoire totalement différente, mais qui m'a apporté beaucoup de choses.
Ah ouais, non, après, enfin, ouais, j'avais donné cet exemple là parce que c'est ce à quoi je pensais à ce moment là, mais c'est vrai que t'as l'exemple inverse. Moi, je le vois aussi, des gens avec qui tu te dis, tu vas pas du tout forcément t'entendre parce qu'il y a pas de, comment dire, il y a pas de socle commun a priori qui va faire que tu vas t'entendre correctement. Moi, j'ai déjà eu des surprises comme ça. Là, il y a un truc qui me fait bien marrer au karaté, parce que au karaté t'es un peu en pyjama, quoi, enfin, t'es en kimono, enfin voilà. Et en fait, ce que je trouve vraiment marrant, c'est que les mecs, tu les vois tous en kimono, bah, je sais pas, les filles, elles ont les cheveux attachés, elles ont pas de coupe, les mecs ils ressemblent à rien, enfin t'es en kimono, quoi,
tout le monde au même niveau,
on est au même niveau.
Ouais, ouais.
Et tu sais pas du tout qui fait quoi, enfin t'as moins ce rapport. Après, t'as des petits feelings que tu peux avoir, tu vois des dégaines, etc., mais il y a déjà un truc qui part, quoi. Déjà,
c'est vrai que ça casse pas mal de barrières,
ça,
en fait,
casse le truc. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est de, par hasard, après, croiser certains des mecs dans la rue, quoi, et de dire, ah ok, putain, en fait, ce mec là ça dégaine, quoi.
Ouais.
Alors, mais genre, de manière positive ou négative, hein, ouais. T'hallucines parce que le mec il est habillé je sais pas comment, enfin c'est des exemples bidons, mais ouais, je trouve ça quand même assez fou de se dire tous les petits préjugés qu'on peut avoir ou que les gens peuvent avoir sur toi, comme quoi ils veulent pas dire grand chose au final, parce que voilà, là c'est un exemple que je vis régulièrement. Maintenant, bah, les gens, je commence un peu à les connaître, mais en tout cas au début, tu te fais un peu une idée, tu vois un mec, sa façon de parler, tu fais ah, lui il va être un peu comme ça, enfin, sans forcément y penser consciemment, mais tu te fais un petit truc dans ta tête, et après tu le croises, tu vois qu'il a rien à voir, et qu'en fait bah en fait il a l'air un peu con, ou à l'inverse il a l'air hyper cool, alors que tu t'es dit qu'il avait une tête de con, enfin c'est c'est marrant quoi.
Ouais c'est vrai, ouais c'est, mais c'est ça qui est cool avec le sport, pas forcément en équipe mais en groupe.
Ouais, ouais.
C'est que ouais c'est comme tu dis, ça fait tomber plein de barrières en fait, et on est tous au même niveau quoi. Et puis il y avait un autre truc que j'appréciais moi quand je faisais de la boxe notamment, mais même quand je fais du sport en salle, juste quand je fais de la muscu ou du cardio, et c'est un truc j'aimerais avoir l'occasion d'en parler avec tous mes potes si nombreux qui sont là genre j'aimerais faire du sport mais j'y arrive pas.
Ouais.
C'est, j'aimerais réussir à transmettre cette idée qui pour moi est génial, c'est que à partir du moment où tu fais du sport, et voilà, donc ça rejoint cette idée de pleine conscience, c'est sport on va dire individuel, en équipe c'est différent quoi. Si tu fais un match de foot, c'est peut-être pas tout à fait pareil.
Ouais.
C'est que c'est un moment que tu t'offres, c'est un moment où t'es juste seul avec toi en fait, et tu peux enfin ne penser à rien, juste rester concentré sur l'effort que tu fais en fait.
Ouais, ouais.
Et ça c'est un truc que j'ai vraiment appris à apprécier avec le temps. Mmh. Et je suis persuadé que j'ai un peu du mal à décrire le truc, mais je suis persuadé que si j'arrivais à bien transmettre cette idée, ce concept, ça pourrait intéresser plein de gens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense que, encore une fois, je repense à des choses qu'on s'est déjà dites, mais je sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Mais je pense qu'il y a aussi un gros truc, c'est le fait de. Il y a certains trucs, alors ça fait un peu mec. Autant ou quoi, mais genre un peu le délire, genre mais tu peux pas comprendre, tu vois. C'est le délire où je pense qu'il y a certains trucs que tu dois expérimenter par toi-même que tu pourras pas expliquer par les mots, quoi. Genre la sensation, tu vois, genre tu parles de faire un effort où t'es concentré dessus. Je pense que pour arriver à ce stade, il faut déjà être dans le sport, quoi, entre guillemets. Je veux dire, quand si tu fais pas du tout de sport et que tu essaies de te motiver, ouais, faut que j'aille courir, faut que j'aille faire je sais pas quoi. Les premières fois où tu vas aller courir, tu vas pas être en mode concentration sur
ouais,
toi, tu vas juste galérer.
Il faut une mise à niveau, c'est sûr. Ouais.
Et ça va pas être tout de suite. Donc après, ouais, après, c'est vrai que ouais, ça pourrait être intéressant d'arriver à le formuler pour que les gens voient ce que tu veux dire et qu'ils essaient de l'expérimenter par eux-mêmes. Mais je pense que tu réalises vraiment le truc une fois que tu l'as fait. Et parce que tu vois, je sais pas, par exemple, pour la course à pied, moi j'aime pas courir, quoi. Vraiment, j'aime pas ça. Mais. Pour les mettre forcés un peu à le faire, et puis après je te dis que j'aime pas ça, mais les fois où j'ai couru un peu plus longtemps et tout, où j'ai vraiment couru, bah j'ai apprécié quoi. Genre je sais en fait, j'ai fait l'expérience, je sais qu'au bout il y a une satisfaction. Après bon, je me motive pas forcément tant que ça, après je fais d'autres sports à côté, mais je sais que demain si j'ai envie de courir, je vais me motiver beaucoup plus facilement qu'il y a X temps, parce que avant je savais pas à quoi m'attendre, alors que là je sais que même si ça me fait un peu chier, qu'au bout de l'effort, bah, je vais être récompensé, quoi.
Mmh, bien sûr, ouais.
Mais ouais, enfin, c'est. Puis ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de dans quel état t'es aussi. Parce que je trouve que c'est assez, on va dire, thérapeutique. Moi, je prends l'exemple de la course à pied, hein. Mais n'importe quel effort aussi. Mais de, ouais, d'aller courir et de penser un peu, être dans ta tête, soit être concentré sur un truc ou justement réfléchir à d'autres sujets que t'as en tête. C'est aussi un truc que les gens qui font pas de sport bah, savent pas, en fait. Tout simplement, donc faut que tu motives dans ton chat là cette fine équipe là.
C'est ouais, on essaiera quoi, on essaiera. Mais il y avait Matt Mitrione de poids lourd qui est maintenant au Bellator, mais qui était à UFC pendant longtemps, qui avait plutôt bien résumé les trucs quand il faisait sa saison d'Ultimate Fighter spécial poids lourd.
Ouais.
Une saison vraiment particulière d'ailleurs.
Ouais.
Il avait dit, c'était sa petite interview d'avant combat.
Ouais.
Il était là genre. Il était là, genre, c'est super bizarre, mais quand je suis dans la cage, c'est le seul moment où j'arrive à interrompre toutes mes pensées et tout le bordel qu'il y a dans ma tête.
Ouais.
Et je peux me. Et j'arrive à rester concentré sur ce que je dois faire c'est à l'instant présent, quoi.
Ouais.
Et en fait, c'est ça, quoi. C'est. Enfin, que ce soit du MMA ou du. Peu importe. C'est.
Ouais.
Le fait de pouvoir te détacher du monde extérieur, ne serait-ce que pour trois quarts d'heure, une heure, franchement, enfin, moi je trouve ça limite vital en fait.
Ouais, non, c'est clair. D'avoir ce petit. Après, moi, j'allais dire que je l'ai quand je vais au boulot, mais en fait, non, parce que quand j'arrive au boulot, je me souviens de rien. Donc, non, mais ouais, c'est un truc aussi que j'ai noté. Ouais, aussi bien dans les trucs collectifs, mais ça qui est marrant, c'est que. Après, je sais pas, quand tu fais du sparring ou des choses comme ça, même si t'es avec des partenaires, il y a quand même un truc que je trouve assez fou, c'est le fait de à la fois échanger avec quelqu'un. Je parle vraiment dans une situation précise, sparring, où tu voilà, t'es en train de faire un petit combat, ou même pas vraiment du sparring, mais bosser des techniques avec quelqu'un. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que t'es à la fois disponible pour quelqu'un, mais t'es en même temps hyper concentré sur toi et sur ce que t'as à faire, quoi. Et moi, c'est des trucs où des fois, après, ça arrive pas tout le temps, mais ce moment où tu peux être dans ta bulle, où t'es, je sais pas comment ça s'appelle, mais t'es dans le flow du truc, où tu réfléchis même pas et t'es en train de faire tes trucs et ça s'échange bien, machin.
Plein de conscience.
Ouais, enfin voilà, c'est des moments précieux.
Ouais, absolument. C'est des moments très précieux. C'est des moments rares et précieux, quoi. C'est clair.
Et donc, toi, t'es un fan de Mad Mitrione, juste pour rebondir.
Pas vraiment, non. pas spécialement, mais je trouvais que c'était une bonne observation de sa part.
Ouais. Et pour faire une transition, d'ailleurs, sur le MMA, justement, j'avais une question, je sais pas si t'es au courant. Mad Mitrione, il doit pas rencontrer Fedor, lui ?
Il est question de ça. Il est question qu'il rencontre Fedor. Alors, apparemment, ce qui est sûr, c'est que Fedor a signé un deal avec de Bellator.
D'accord.
On n'en sait pas plus pour le moment, quoi.
Ok. Parce que moi j'ai pas du tout suivi. C'est d'un temps, je suis un peu déconnecté en tant que podcaster MMA, j'ai rien suivi de ce qui se passe.
D'accord. Très bon boulot. Non, alors à la base, il était question qu'il aille à l'organisation japonaise Rizin,
ouais,
et qu'il affronte Shane Carwin. Je
pense que c'est Rizin ou Rizin.
Ah, c'est une très bonne question.
J'aurais plus tendance à dire Rizin, genre soleil levant et tout ça. Là.
Ouais, on va dire Rizin, effectivement. Ouais, c'est sûr. On va rester sur Rizin.
De toute façon, c'est Rizin.
Restons sur Rizin, il devait affronter Shane Carwin.
Ouais.
Visiblement, c'est tombé à l'eau. Et maintenant, ouais, il est censé donc signer au Bellator pour plusieurs combats. Et son premier, ce serait visiblement contre Mad Mitrione. Mais il n'y a pas énormément d'infos là-dessus.
Mais je dis que j'ai rien suivi, mais tu me parles de Shane Carwin. Et je crois que son quoi, début ou quoi, son premier truc à Rizin.
Il n'y a pas combattu.
Ça a été annulé en fait. Je veux dire, je crois qu'il avait signé ou machin. Et je sais pas contre qui il devait se battre, ce qui était prévu. Et en fait, t'as lui qui est plus sur, qui est plus dans les projets immédiats, quoi. Il est remplacé par Isering.
Oui, d'accord. Ouais.
Et, old school. Et c'est qui d'autre? Vanderlei Silva, je crois, qui.
D'accord.
Qui devait combattre Crocop.
Il devait combattre Crocop, ouais.
Et maintenant, à sa place, j'ai oublié qui c'est. J'ai lu ça, je sais pas quand là.
À la place de Crocop, tu veux dire?
À la place de Vanderlei Silva, c'est un autre mec.
D'accord, parce que c'est Vanderlei Silva qui s'est blessé.
Ouais, je crois, ou je sais pas si c'est blessé ou si c'est un autre truc, je sais pas c'est quoi la raison.
Ouais. Après, j'ai toujours pas maté, j'ai rien maté de Rizin.
Ouais.
Quand je serais d'humeur à mater de Cirque Pinder, je pense que je m'y mettrais, quoi. Mais.
Regardez Gabi Garcia contre je sais pas qui là.
Non, bah, son prochain adversaire, Gabi Garcia, c'est une dame de 50 ans.
Donc,
ouais, je te jure, ouais. Donc celui-là, il faudrait que je fasse l'effort de le mater au moins, quoi.
C'est chaud.
Ouais.
Alors attends, j'essaie de. Ah, c'est King Mo qui remplace Vanderlei Silva contre Crocop.
Ah ouais, c'est intéressant ça.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est quand?
C'est pour Rizin FF3. Je suis sur un site brésilien, donc ça va être super. 29 décembre.
D'accord, ah ouais.
Saitama Super Arena. Ah ouais, quand même.
Ouais, ok. Ah ouais.
Ouais. Et bon, après, c'est en brésilien, donc je sais pas pourquoi il doit être blessé ou quoi. J'arrive pas à lire le brésilien là. Mais sinon, pour parler un peu du sujet, la MMA. Donc ouais, on s'est dit avant de commencer ce qu'on avait regardé dernièrement. Donc t'as pas regardé, parce que là on est quel jour? On est le 18,
on est 19.
19 décembre. Donc il y a eu un UFC Sacramento ce week-end. Tu l'as pas regardé? T'as pas eu les résultats? Tu t'es pas fait spoiler?
Si, j'ai eu le résultat.
Si.
Ouais.
Et donc le dernier que t'as vu, tu m'as dit c'est le 206 du coup.
Je crois. Oui, c'est 206, c'est ça. Ouais, c'était Max Holloway contre Anthony Pettis.
Ok. Alors, est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de Holloway, Pettis, tout ça?
Moi, j'aime beaucoup Max Holloway. Je trouve qu'il a une bonne tête et qu'il a l'air très sympathique.
Ouais.
Et c'est un super combattant.
Ouais.
Bon, il a mis Pettis à l'amende. C'est quand même pas négligeable. Après, Pettis, lui, c'est pas sa catégorie habituelle. Il a dit après le combat qu'il avait vraiment galéré. Il n'a pas atteint d'ailleurs la limite de poids.
Exact. Ouais.
Il dépassait de
3 pounds, je crois.
3 pounds,
ouais, 3 livres.
Ouais. Donc, bon, c'était pas les conditions optimales pour lui, mais bon, enfin, il a perdu. Bah moi je suis curieux de voir ce que ça a donné Max Holloway, quoi. Du coup, il est censé, il y a plus place au doute possible, il est censé affronter José Aldo.
Ouais.
Pour Alors, c'est encore une autre galère pour la ceinture intérim ou pour la vraie ceinture, parce que Conor McGregor est censé lâcher une des deux.
Je crois qu'il a lâché, enfin, il a été forcé de lâcher la.
Ouais, mais lui, il dit que non, enfin, bref, c'est. Enfin, on va dire que oui, enfin, il va la lâcher, quoi. Enfin, ouais. Dans tous les cas, Max Holloway est censé rencontrer José Aldo, et ça, j'ai vraiment envie de voir ça.
Ouais, et moi, je voulais juste savoir, parce qu'en fait, je pensais à ça tout à l'heure quand on parlait de pleine conscience et de psychologie et tout ça.
D'accord.
Sans faire le psychologue de comptoir, là. Avant qu'il y ait le combat entre Pettis et Holloway, moi je faisais un peu mes pronostics vite fait, et dans ma tête j'hésitais, j'avais pas du tout, enfin comme tous les combats franchement tu sais jamais qui va gagner, mais je me posais la question psychologiquement pour un mec comme Pettis qui est genre qui était genre au top niveau, le mec il le mettait sur des boîtes de céréales, enfin c'était genre le king quoi, le petit beau gosse et tout, il était un peu en galère quoi, je veux dire il arrivait, son dernier combat il avait gagné contre Oliveira.
Ouais.
Contre Charles Oliveira, mais en gros il avait des hauts et des bas quoi. C'est un étang, donc on va dire que peut-être que psychologiquement il était un peu en mode il faut que je gagne parce qu'il avait un peu plus la pression, alors que Holloway c'est un mec en pleine confiance qui avait 8 combats d'affilée, maintenant il en a 9, 9 victoires d'affilée. Et donc moi je me demande la part psychologique qui joue. Enfin voilà, ma question c'est ça, c'est que vu que toi tu l'as vu le combat, moi je l'ai pas vu. Est-ce que t'avais l'impression que c'était vraiment une question de skill quoi dans la cage en termes de combat, genre Holloway était juste meilleur, ou est-ce que tu sentais que qu'il y avait aussi Pettis qui était un peu timide, enfin parce que j'ai pas du tout vu le combat, j'ai juste vu la fin.
Je pense qu'il y avait une grosse part de Pettis qui était peut-être pas force, qui était pas à son aise et qui avait galéré.
S'il avait galéré pour la peser.
Pour la peser et qui a pris bien cher physiquement avant le combat, donc je pense que ça a beaucoup joué.
Et parce que donc du coup a priori il retourne en poids léger Pettis, je crois. Toi tu vois comment son avenir, est-ce que tu le vois que tu vois qui pourrait revenir en haut, moi je sais pas trop quoi.
J'arrive pas à imaginer cartonner un mec comme Khabib Nurmagomedov quoi.
Ouais.
J'arrive pas à imaginer même, enfin ce serait cool s'il faisait un rematch contre Rafael dos Anjos.
Ouais.
Mais j'arrive pas à imaginer genre de remettre à l'amende ou parce qu'ils avaient pris bien cher quoi.
Ouais.
Donc je pense que ça va être genre du top 5, top 10 pour lui et que lentement mais sûrement il va dégringoler et voilà.
Parce que moi j'ai un petit peu de mal, parce qu'en fait j'ai toujours, enfin dès que je me pose ces questions là et que je les exprime en public ou même en privé, je me dis ouais franchement j'y connais rien donc j'ai pas vraiment de raison de venir la ramener et dire qui est meilleur que l'autre. Mais moi j'ai toujours un petit truc avec Pettis et même de la façon dont ça fonctionne l'UFC en général, tu vois un mec comme Holloway en théorie, il devrait avoir eu un combat pour la ceinture il y a longtemps parce qu'il enchaîne les victoires etc, mais en termes marketing le mec il a forcément une gueule de gros beau gosse quoi. Ouais, après je sais pas, voilà, bon il est moins le vendre qu'un mec comme McGregor quoi. Et un mec comme Pettis, je trouvais qu'il était vachement le vendre parce qu'il fait des trucs flashy, le kick je sais pas quoi, Showtime kick machin, taekwondo machin, mais j'ai jamais trouvé qu'il était si ouf que ça au final. Il faisait des KO spectaculaires, il est hyper bon, je vais pas dire qu'il est mauvais, c'est pas du tout le sujet, mais je trouve qu'en termes de combattant complet, j'ai jamais trouvé complet quoi, parce qu'il s'est fait mettre à la vente contre Clay Guida. Enfin, dès qu'il y avait un mec qui lui mettait vraiment une pression de lutteur, bah Pettis, tu voyais tout de suite ses faiblesses quoi.
Ouais.
Et j'ai trouvé qu'en fait, au final, après il a mérité son titre de champion, je remets rien en cause, mais je trouvais qu'on l'a trop encensé et qu'on en a fait un mec phénoménal alors qu'il est peut-être pas si phénoménal que ça au final. Tout simplement en fait. Peut-être qu'il est pas si ouf que ça en tant que dans l'UFC quoi.
Bah ça c'est ça reste assez propre à l'UFC quoi. C'est-à-dire
ouais,
que
ouais.
T'as l'impression que l'UFC ils sont assez désespérés à l'idée d'avoir une méga star en fait. Et de
ouais.
Et dès qu'ils ont tombé sur Ronda Rousey, genre elle s'est retrouvée à faire de la pub pour Burger King et à jouer dans Expendables 18.
Ouais.
Et Conor McGregor c'est encore pire quoi.
Ouais, c'est
Conor McGregor qui va jouer dans Game of Thrones.
Ah ouais?
Ouais.
Sérieux?
Ouais, je te jure.
Oh mon dieu.
Et genre, ouais, Conor McGregor, c'est la folie, quoi. Enfin, on en parlait la dernière fois. C'est pareil, j'ai des mecs au taf, dont j'ai jamais entendu parler de sport de combat, tout d'un coup, qui te parlent de Conor McGregor. Ils te parlent de Conor McGregor et Patrice Carton, quoi.
Ah, mais ouais, enfin, c'est.
Mais. Et du coup, typique. C'est pas du tout au même niveau, mais Sage Northcutt,
ouais,
qui s'est mangé une deuxième défaite d'affilée. Hein.
Ouais.
J'ai vu des tweets, un tweet de Kenny Florian qui était là, genre Sage a beaucoup de talent, mais il faudrait qu'il passe dans une organisation un peu inférieure pour faire ses dents. Non, parce que ouais, c'est vrai que le mec, après tout, il a 20 ans, il est super jeune. Enfin, ouais, ils ont cette espèce de truc d'obsession.
Ouais, ils veulent absolument une sorte de.
De méga star et de faire leur beurre là-dessus, quoi. Et du coup, forcément, il y a plein de combattants par, ils ont aussi d'autres, d'autres sujets à polémique, mais ils ont plein de combattants qui gueulent par rapport à ça, quoi, qui sont genre où est mon combat pour le titre, pourquoi, ouais. Pourquoi lui, pourquoi elle, ouais, c'est...
Mais ouais, mais on en parlait aussi la dernière fois, c'est tout ce côté un peu argent, quoi. Enfin, c'est normal, hein, faut que ça marche et qu'ils puissent faire de l'argent. Mais tu vois, par exemple, t'as Woodley qui affirme haut et fort que lui, il veut se faire de la thune, ce qui est compréhensible parce que voilà, le mec, il faut qu'il puisse bouffer. Et qu'en plus, c'est t'as une carrière courte, quoi, quand t'es combattant, donc il n'y a pas de problème. Mais qui est là à dire ok, je veux Nick Diaz pour le prochain combat, et t'as des mecs de l'UFC qui sont genre ah, pourquoi pas et tout. Et genre, moi, Nick Diaz, je suis assez fan, j'aime bien le délire du mec, même s'il est un peu bizarre. Mais il mérite pas du tout, hein.
C'est clair.
Pas pour le titre, quoi. Pas une seconde, il a combien, 5 défaites, enfin, je sais pas, il a gagné son dernier combat en 2012, un truc comme ça. Et je me dis que ce serait pas impossible qu'ils arrivent à faire passer ça, à faire Nick Diaz, enfin, je pense qu'ils vont pas le faire. Mais ce genre de direction qu'ils prennent, de manière générale, je trouve ça dommage, quoi, parce qu'on s'éloigne petit à petit de entre guillemets la pureté du sport, vraiment les meilleurs contre les meilleurs, quoi. Le côté marketing, il est beaucoup trop
ouais, non, c'est clair, c'est en plus t'as l'impression qu'effectivement Nick Diaz, il est bien pratique, quoi. Et quand ils ont besoin de sortir un mec qui va pas trop poser de soucis mais qui va avoir une grande gueule, ça va tomber sur lui. Mais effectivement, au bout d'un moment, il est pas nécessairement au niveau face au mec qu'il affronte.
Non, après, moi, je suis pour qu'il lui fasse des combats, mais réalistes, quoi. Juste, le mec, ça fait que je sais pas combien de temps. Déjà qu'il a pas combattu en... Ses deux derniers combats, c'était en moyen. Attends, il a fait Anderson Silva, et avant, il a fait quoi?
Anderson Silva.
Avant, il a fait Georges Saint-Pierre, peut-être, je sais plus.
Ouais, mais entre les deux, en plus, il y a de la marge, quoi, ouais. En termes de temps. Mais de toute façon, tu m'as dit que Tyrone Woodley, il s'était fixé, il affrontait Stephen Thompson.
Ouais, mais je te dis, il y a pas longtemps. En fait, voilà, je crois que je sais pas, mais on va dire il y a une semaine, l'info est tombée comme quoi Nick Diaz, il est plus suspendu officiellement parce qu'il a réglé ses factures ou je sais pas quoi, là, ses amendes, parce qu'il avait une amende à payer. Et genre, c'est officiel, voilà, il est dispo, il peut reprendre le combat. Et direct, t'as Woodley qui fait, ouais, je suis chaud et tout, machin. Alors que t'as justement, normalement, la revanche, enfin, pas la revanche, mais le rematch, quoi, Woodley-Thompson. Et j'espère qu'ils vont le faire. Enfin, quoique, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais ça serait vraiment abusé qu'ils squeeze ce truc-là qui paraît plus ou moins évident pour faire passer genre Diaz ou. À la limite, s'ils font passer Georges Saint-Pierre, s'il revient, bon, je pourrais comprendre, il y a une certaine logique. Mais ouais, enfin, c'est juste pour. C'est un exemple, quoi, mais juste pour dire que ouais, ils ont ce truc-là en ce moment, en tout cas, de vouloir absolument faire tout ce qui est coup d'éclat, genre. Je sais pas, toutes les catégories, tu peux te dire ça quasiment, quoi. Enfin bon, je sais pas.
Mais c'est Joe Rogan, ton idole, qui récemment sur Twitter a dit que.
Attends, mon idole, tu peux me dire ce que tu m'as proposé comme tisane ou pas?
Donc, je te disais que. il a balancé un tweet tout récemment parce qu'il a vu la promo pour la future affiche Ronda Rousey contre. Enfin, ouais, Amanda Nunes contre Ronda Rousey. Je crois que c'est ça d'ordre. Enfin bon, on s'en fout. Ouais. Et il dit c'est quand même super bizarre parce que toute la vidéo promo est quasiment uniquement focalisée sur Ronda Rousey, quoi.
Non, on la voit même pas, je crois, l'autre team, enfin, peut-être vite fait, quoi.
Ouais, j'ai pas vu le truc, mais enfin, ce qui m'étonnerait pas de la part du UFC, quoi.
Ouais.
Et c'est souvent des coups comme ça, quoi.
Ouais. Après, je pense que c'est comme ça quand t'as une organisation. Après, voilà, je me dis en termes de. Parce que nous, on raisonne un peu en tant que fans de combat, et eux, ils raisonnent en tant qu'entreprise, quoi, société. Ouais. Et donc, je pense qu'ils ont une équipe marketing, et l'équipe marketing, qu'est-ce qu'elle va faire pour. Si je me mets dans leur logique, quoi, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle va faire pour attirer le plus de gens qui, genre, Amanda Nunes, le grand public, ils savent pas du tout qui c'est.
Bien sûr, ouais.
C'est sûr. Donc, je veux dire, s'ils veulent faire une pub qui va passer sur, je sais pas quoi, les chaînes, quoi, là-bas aux États-Unis, Fox, tout ça. Si tu mets Ronda Rousey, tu fais un truc hyper stylé sur elle, bah voilà, ça va attirer les mecs. Et si tu mets Amanda Nunes, bon bah.
Mais ouais, mais
d'un autre côté, c'est voilà.
C'est pas logique, ouais. Concernant les faits, quoi, les faits réels.
Ouais.
Et deuxièmement, alors j'ai pas vu la vidéo promo, mais parce que après, quand ils font une vidéo promo, ils vont te raconter une histoire. Enfin, c'est eux qui vont te vendre d'une certaine manière.
Ouais.
Qu'est-ce qui les empêche de dire genre Ronda Rousey revient pour récupérer sa ceinture, mais elle a une meuf super vénère en face d'elle, Amanda Nunes qui a éclaté telle meuf. Enfin, ils pourraient la mettre en lumière un peu aussi, quoi.
Bah, non, ouais. C'est clair.
Mais en fait,
moi je l'ai vu vite fait le truc, mais je crois que je l'ai vu sans le son, donc je sais pas tout ce qu'il raconte, mais en gros tu vois Rousey qui est genre chez elle, c'est pas vraiment chez elle je pense, mais elle est censée être dans sa baraque, Et elle chill, je sais pas, elle est là, je me souviens plus trop de la vidéo, et après t'as des petits extraits de combat, elle revient, elle va revenir récupérer son truc, machin, elle a la rage, genre tu vois que je crois qu'elle est... Ah oui, elle mate la télé, et elle voit des interviews de gens qui disent « Ah, Ronda Rousey, est-ce qu'elle a encore confiance en elle ?» Et genre là, elle coupe la télé, et je crois qu'elle met un coup de poing dedans, enfin je sais plus.
D'accord,
mais
ouais.
C'est vraiment, c'est cinématique quoi, mais bon... C'est un peu abusé quoi.
Ouais.
Mais bon, bah, j'espère que, je sais pas, j'espère que à un moment donné ils vont un peu renverser la tendance, parce que moi je sens le truc qui va pas forcément partir en couille, mais à force, genre je pense que à force les ceintures elles vont plus vouloir dire grand chose quoi.
Bien sûr, ouais.
Genre,
ouais.
Tu vois déjà McGregor qui avait chopé les ceintures, mais qui veut pas en défendre, qui veut en défendre aucune. Enfin, tu chopes le truc.
Ouais, mais vas-y, je t'écoute.
Et, ouais, enfin, McGregor qui veut. Enfin, toutes les ceintures, c'est un peu bizarre. Et le terme intérim aussi, maintenant, il veut plus rien dire.
Mais
il y avait une époque où ça avait du sens, mais maintenant.
Mais enfin. Ouais, ça avait du sens, même
plus
si.
Plus ou moins, quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est n'importe quoi. Ouais.
Parce qu'à la base, le truc intérim, c'est qu'en gros, t'avais un champion qui était là, mais qui allait pas pouvoir être là pendant X temps, et ça allait faire trop long, il fallait quand même faire tourner la catégorie, donc allez, en attendant que le mec revienne, on va mettre un mec en intérim, et quand le champion est là, il prend le mec intérimaire, ok. Mais maintenant, c'est juste, il les balance comme ça,
ouais, c'est clair.
Les trucs par intérim, quoi.
Ouais.
Je veux dire, McGregor, il a gagné le truc contre Aldo, c'était quand? Il y a un an,
ouais.
Il y a un an, les mecs, le prochain combat, Aldo, Edgar, dirait que c'était pour leur truc intérim, quoi, alors que... Il n'y a pas forcément besoin. Enfin,
c'est clair, non. Non, c'est très bizarre. Encore une fois, ça paraît, vu d'extérieur, ça paraît vachement désordonné. Et un peu désespéré, t'as l'impression qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, quoi, bizarrement. Quoi.
Ouais.
Ils sont genre, putain, il faut. Enfin, je sais pas, ouais, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu bizarre.
Ouais.
C'est comme ça que, ça, en tant que spectateur lambda, c'est comme ça que ça apparaît à mes yeux. Hein, mais...
Et est-ce que t'as suivi en light heavyweight, là, je sais pas comment on dit, mi-lourd? Où ça en est, parce qu'en gros t'avais Cormier Johnson qui devait se faire, ça n'a pas été fait parce que Cormier est blessé. Est-ce qu'il y a une suite des événements, il y a un truc qui est prévu là?
Bah Cormier, je sais que Cormier espérait Spring, c'est printemps, c'est ça?
Ouais.
Espérer faire ce combat en printemps, c'est ce que j'ai vu récemment.
Ils gardent le même combat, ils veulent le repousser quoi.
Ouais, ouais, parce qu'Anthony Johnson, on lui avait proposé d'affronter on lui a proposé un combat à la place et il a refusé.
Ouais.
Mais je sais, j'arrive plus à me rappeler d'ailleurs ça qu'on lui a proposé. Mais lui, je pense que tout ce qui
est intéressant. C'était pas Arlovski?
Non, je crois pas.
Parce que moi, j'ai vu passer un truc à Arlovski, il a refusé. Peut-être pas, je sais pas si c'est Anthony Johnson qui a refusé ou. Parce que j'ai vu un truc comme quoi André Arlovski il a refusé un combat et maintenant il combat à Ngannou là.
Ouais, d'accord, ça j'avais vu contre Ngannou.
Donc ouais, je sais pas.
Mais non, enfin bon, enfin, je pense que tous les deux ils veulent rester concentrés là-dessus. Et...
Ouais.
Mais ouais, ouais. Pardon, excuse-moi. D'ailleurs, il va y avoir au prochain UFC, tu auras notamment Cain Velasquez contre Fabricio Werdum.
Ouais.
Comment est-ce que tu vois le truc?
Bah. Moi, j'aime bien les chances de Velasquez. Après, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec, avec cette catégorie. Puis même les deux, Werdum et Velasquez. Parce que, en gros. Le premier combat, il n'y a eu qu'un seul combat au final entre les deux. Il y en a eu un qui était prévu qui s'est jamais fait, et... enfin qui a été annulé.
Et le combat, parce que le combat pour le titre.
Et après, il y en a un, donc elle, c'est seulement le deuxième, là, c'est la revanche.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, ouais.
Parce que je pensais qu'il y en avait eu trois, mais c'est seulement le deuxième. Donc, ouais, soi-disant le premier, enfin, soi-disant, non, apparemment, c'est vérifié. Cain Velasquez n'était pas tout à fait prêt, quoi. Il n'était pas acclimaté, machin. Donc, t'as des mecs qui disent que, en gros, un Cain Velasquez préparé, il défonce tout le monde. Et Werdum. Je pense qu'il est capable de lui remettre la même chose, mais c'est des mecs. J'ai l'impression que d'un combat à l'autre, quand je regarde les combats qu'ils font, ils ont pas toujours la même forme physique.
Mm.
Tu vois, en plus, les poids lourds en énergie générale, ils sont tous un peu plus vieux, moyenne d'âge plus élevée que les autres. Donc moi, je sais pas du tout en fait, parce que je sais pas quel genre de mecs, dans quelle forme ils vont être respectivement quoi. Donc j'arrive jamais à me projeter sur. Je sais pas lequel sera le plus frais des deux, lequel. Moi, ce combat-là, j'ai aucune idée. Enfin, après, si Velasquez, il est comme à l'UFC 200, parce que contre l'autre, là, contre Travis Brown, c'était une sanction. Et,
ouais.
Et voilà, et quand Velasquez, il est comme ça, franchement, c'est beau à voir, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais après, je sais pas, faut voir. Faut voir comment, je sais pas du tout. Toi, t'as un truc dessus, tu sais.
Bah, moi, je commence à avoir peur de faire des pronostics parce que sans déconner, j'ai vraiment très souvent tort. Mais
bah, attends, ce qu'on va faire, moi je vais sortir la fight card de l'UFC 207.
Vas-y.
Et on va pouvoir faire nos pronostics.
Ça marche.
Complètement faux.
Très bien.
Et puis après, bah, on pourra même s'approcher de la dernière partie de ce point sur la table. Alors, putain. Bah, je te laisse finir sur Cain Velasquez et Werdum, après on prendra la carte.
Cain Velasquez et Fabricio Werdum. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, non, je pense que si Cain Velasquez est en forme, il peut se faire Fabricio Werdum. La dernière fois, au Mexique, il a perdu parce qu'effectivement, il n'était pas prêt. Enfin, ça reste sa faute.
Ouais.
Enfin, il a vraiment l'air. Quand il est en forme, il a vraiment l'air inarrêtable, quoi.
Et il fait peur. Hein.
Il fait vraiment flipper.
C'est vrai, mais après, voilà, c'est ça. C'est ce genre de combattant, je pense, qui. Après, bon, chacun a ses goûts et tout, hein. Mais c'est le genre de combattant où tu te dis vraiment, en termes de mec qui peut dominer une division, j'aime bien quand c'est un mec comme ça qui est champion de la division, parce qu'il a l'air incontestablement champion, quoi. Alors que, bon, je prends un exemple bidon, mais alors qu'un mec comme je parlais quoi de Pettis, qui était genre, il y avait la hype sur lui, bah. Même quand il était champion, moi j'avais toujours un petit astérisque au-dessus en me disant ouais, mais il a pas l'air invincible, quoi. Alors que Velasquez, il s'est quand même fait battre quoi, deux fois en plus, Dos Santos et Werdum. Mais il a quand même ce côté, quand il est là quoi.
Ouais, c'est clair.
Je sais pas.
C'est clair.
Alors attends, UFC 207.
Je rapproche un petit peu dans ton micro.
Ouais, je suis un peu loin. UFC 207, alors il y a une. Carte préliminaire sur Fight Pass.
Je crois qu'il y a Johnny Hendrix qui combat si je dis pas de bêtises. Contre qui?
T'as la carte Fight Pass et contre Neil Magny.
Ah.
La carte Fight Pass, elle est pas. Ouais. On va la sauter, je pense.
Ouais.
On va. Alors attends. Bon, allez, on va commencer par les deux derniers combats de la carte préliminaire Fox Sports. T'as Dong Yoon Kim contre Tarek Safieddine.
D'accord. Déjà, ça c'est intéressant.
Ouais.
Je vais partir sur Dong Yoon Kim parce que Tarek Safieddine, je sais que c'est un mec qui a plein de qualités, mais ce combat que j'ai vu de lui, c'était son KO contre Rory McDonald.
Ouais.
Donc, pour le principe, entre guillemets, je vais partir sur Dong Yoon Kim.
Ok. Moi, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Dong Yoon Kim, mais je suis un peu comme toi, quoi. Je pense que il va un peu imposer une lutte et ouais. Alors donc Johnny Hendrix contre Neil Magny. C'est le headliner de la carte préliminaire.
Je pense que c'est Neil Magny qui va gagner.
Alors moi j'avais lu comme quoi Johnny Hendrix, après ce combat, s'il perd ce combat,
il arrête. D'accord.
Donc je me dis que c'est pas un bon présage, quoi, parce que même s'il gagne, si le mec il pense déjà à arrêter, si, enfin, je sais pas, mais les derniers combats que j'ai vu d'Hendrix, il a pas du tout l'air aussi.
Ah c'est clair, il a l'air. Ouais. Mais j'en parlais avec un collègue qui est bien branché UFC,
ouais.
Et il soupçonne que parce que Johnny Hendrix il cartonnait tout le monde.
Ouais.
Et alors je sais pas, enfin il faudrait vérifier, mais c'est vrai que plus ou moins à partir du moment où il y a une espèce de grand plan antidopage qui a été imposé à l'UFC, il y a quand même un peu plus galéré, quoi. Donc avec lui on soupçonnait, est-ce que ce mec a réussi à bien passer entre les gouttes et était chargé
peut-être, ouais.
Au moment où il y a un contrôle un peu moins vénère, et que maintenant qu'il peut plus trop se permettre ça, il se prend des tollés, quoi. Enfin, c'est
l'impression qu'on a, quoi.
Ouais.
Non, mais ouais, donc tu penses que Neil Magny il prend le combat, ouais. Moi je suis avec toi, Neil Magny aussi.
Putain, Neil Magny qui pour Halloween avait posté, il s'était déguisé en Prince, il avait un costume de ouf, quoi. C'était trop drôle, quoi.
Attends, alors maintenant, main card, pour ouvrir la main card, t'as TJ Dillashaw contre John Lineker.
Putain, c'est bien ça.
Ouais.
John Lineker qui. Alors, ça, c'est un truc, j'arrive jamais à imprimer ça, mais John Lineker, genre le mec a un nom de footballeur anglais et il est brésilien.
Il est brésilien, oui.
Il est brésilien, ouais. Ah ouais, okay. Je vais partir sur TJ Dillashaw.
Ouais.
Ouais. Extrêmement talentueux. Ouais, TJ Dillashaw.
Alors, déjà, je saute un peu des étapes, mais moi, je dis que c'est un petit peu la rage pour TJ Dillashaw, ce combat. Parce que le mec, en gros, il est sur la même carte que Dominic Cruz et Cody Garbrandt.
Ah ouais, ouais. Putain, ouais, c'est une super affiche.
C'est une super affiche, ouais. Et en fait, le truc pour lui, c'est qu'en gros, il a eu un combat quand même assez serré avec Dominic Cruz au final.
Est-ce que pour toi, c'est le syndrome Gustafsson, après sa défaite contre Jones, il devait affronter Jimmy Manua, quoi. C'était un peu une espèce de... tu m'avais fait part déjà de ça, il était genre, putain, c'est abusé, il affronte ce mec, parce que s'il perd, c'est vraiment genre, il dégringole, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Mais en plus, je pense que pour dire la chose, ce qui est peut-être pas évident, c'est que d'une part, je pense que le mec, il avait envie de retourner au titre, parce que... Le mec, c'est ça qui est fou aussi avec le délire un peu hype sur les mecs et en faire des stars, c'est que quand il a battu
Renan
Barreau, là, c'était genre, wow, c'est trop le patron maintenant, ouais, c'est bon, c'est sûr.
Ce qui est fou, c'est qu'il avait tabassé Renan Barreau sur deux combats,
ouais.
Et avant ça, Renan Barreau, il y avait des gens pour qui c'était genre le meilleur
point de forme. C'était le mec qui était enfin reconnu pour ses qualités.
Ouais.
Genre, Renan Barreau, juste avant ça, c'était en gros, on a un champion, Dominic Cruz, il revient pas. Au début, ils s'en foutaient un peu de lui. Et quand ils ont vu que Dominic Cruz revenait pas, ils ont fait bon, bah, faut qu'on le markete un peu lui. Donc ils ont commencé à faire non, mais Renan Barreau il est vraiment trop bon, il a jamais perdu de sa vie ou je sais pas quoi. Et quand il s'est fait sécher par Dillashaw, c'est genre waouh, Dillashaw la révélation et tout machin. Nan, nan. Et le mec il a perdu un combat serré, hein,
ouais,
contre Cruz, et maintenant tout le monde s'en branle.
Ouais.
Non mais c'est vrai, c'est ouf. Il y a quand même Faber qui est passé avant lui pour un combat pour le titre, alors que Faber, il est bon, mais genre dans la division, c'était pas le mec qui était en toute logique censé être là, mais il y avait une histoire de rivalité, enfin bref. Et là, il combat donc sur la même carte que Dominique Rose, et lui, Dominique Rose, il est contre Cody Garbrandt, qui est un ancien coéquipier de Dillashaw, là, team machin. Exact, ouais. Donc il doit avoir un peu la rage, Dillashaw, mais bon. Donc ouais, toi tu vois Dillashaw qui gagne, ouais. Pareil. Après John Lineker, il faudrait déjà qu'il passe la pesée aussi, parce que lui il a des problèmes réguliers,
ouais,
avec ça.
D'accord.
Parce qu'il est, il a essayé d'être en flyweight là,
ouais.
C'était mort, ils ont dit non arrête. Et je crois qu'il a raté sa pesée aussi en
Feather.
Ouais. Non, en bantamweight.
En bantamweight, ouais.
Il l'a
ouais.
Enfin bon, bref. Verdum Velasquez, on en a parlé. Cruz Garbrandt.
Je pense que c'est Dominique Cruz qui a gagné, quoi.
Ouais.
Dominique Cruz. J'aime beaucoup ce mec, quoi. Il a l'air sympa, je sais pas, mais il a l'air genre super intelligent. J'aime bien même son trash talk est drôle sans jamais tomber dans la bouffitude.
Ouais, ouais.
Ses analyses sont cool, et puis c'est un combattant de fou, quoi.
Ah non, c'est clair.
Et je me rappelle quand le mec avait pas combattu pendant peut-être 2 ans, peut-être même 3 ans, enfin pendant super longtemps.
Ouais.
Et il avait affronté de japonais, super.
Mizugaki, là.
Mizugaki, ouais.
Ouais.
Il avait allongé au premier round, quoi.
Ouais.
Et après ça, il a encore été blessé super longtemps. Et il affronte Dillashaw, il arrive quand même à sortir victorieux du combat.
Ouais, non, gros respect. Après, moi, je te rejoins, j'adore le combattant. Après, je sais pas si ça serait cool de traîner avec ce mec.
Je pense que le mec, tu vas jamais pouvoir remplacer une, quoi.
Je pense qu'il a l'air un tout petit peu hautain, vite fait. Après, en tant que spectateur, c'est marrant à voir. Je pense qu'il a une sorte de trash talk un peu intelligent. Mais je pense qu'il doit bien se la raconter. Enfin, pas forcément se la raconter au quotidien. Mais je pense que. Je sais pas si c'est un mec avec qui j'irais boire un coup, quoi.
Ouais, non, c'est. Après, c'est une autre question. C'est une autre histoire. C'est genre, TJ Dillashaw, il a l'air imbuvable aussi. Mais...
c'est clair. Ouais. Mais ouais, pareil, moi, je vois lui qui guette. Après, bon, il a l'air quand même assez intelligent pour pas tomber dans cet écueil-là, mais moi j'ai peur qu'il ait trop confiance, tu vois. Genre, tu sais, t'as un peu ce côté où, genre, t'as des mecs qui se font avoir parce qu'ils arrivent un peu trop confiants, trop relax dans le combat, alors c'est bon, ce mec-là il est même pas à mon niveau. Parce qu'en gros, Cody Garbrandt, c'est un mec qui est invaincu, mais qui a pas trop encore testé des mecs du top 5, quoi.
Excuse-moi, il faut juste que je le place, mais putain, c'est un méga beauf, Cody Garbrandt.
Je suis absolument d'accord. J'ai vu, je t'enverrai une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, c'était à l'UFC Sacramento là, où t'avais donc Cruz qui était en mode commentateur. Et en fait, à un moment donné, t'as une section entre deux combats où allez, on est en liaison avec Cody Garbrandt.
Ah, c'est parti en couille, non c'est...
Ils ont commencé à parler, quoi, à s'embrouiller. Et tu vois la dégaine de Garbrandt. Il est un petit costard. Voilà, enfin, ça pourrait passer sur n'importe qui. Sauf que lui, il a genre. Plein de tatouages sur le cou, là, comme ça. Et il a l'air vraiment d'un mec, mais enfin, on dirait un clown, quoi.
Avec une coupe de footballeur, c'est horrible.
Il est horrible. Mais en tout cas, j'ai peur que. Enfin, je pense que Dominique Cruz gagne, mais je m'inquiète juste du fait qu'il pourrait peut-être avoir un peu trop la confiance et se laisser avoir, parce que, après, mine de rien, Garbrandt, il a le KO dans les points, quoi. Donc c'est juste ça, mais après, je pense que Cruz, il peut gagner. Mais je pense pareil, comme d'hab, un peu décision pendant que 5 rounds, il le balade, il le saoule, et puis voilà quoi. Donc voilà. Et le dernier.
Rosé Nunes.
Ouais.
Alors c'est bizarre parce que Ronda Rosé, elle me fout la haine, mais je pense que parmi genre, tous les combattants et combattantes UFC, c'est une des rares à qui genre, je pourrais traîner parce qu'elle a l'air de. Enfin, en dehors de quand je vois les reportages sur elle, genre, c'est une meuf posée qui mate catch et qui joue à la console, tu vois, donc je pense que je pourrais bien entendre avec elle. Mais elle a l'air d'avoir un côté assez imbuvable aussi, quoi.
Ouais, c'est clair.
Genre, si elle t'aime pas, elle te déteste vraiment, quoi, tu vois. Donc, je vais fonctionner à l'affect et je vais partir sur Amanda Nunes, quoi.
Ouais. Moi, j'en ai aucune idée de ce combat parce que faut voir comment elle revient, Rousey. Je pense qu'elle a aussi profité d'un truc. C'est que pendant très longtemps, la division dans laquelle elle est, il n'y avait pas trop de niveau, quoi. Genre, parce que bon, elle gagnait de manière spectaculaire, machin, mais elle n'avait pas trop de compétition, enfin, c'est l'impression que j'avais. Et je pense que, mine de rien, la division, elles sont un peu montées en niveau, quoi, toutes les nanas de la division. Et je sais pas. En fait, ça dépend d'un truc. Ça dépend si Nunes, elle arrive, elle fait la maline, genre, c'est bon, moi je la charge, je vais la défoncer, c'est bon, elle va se faire cuire, elle va se faire attraper, balancer, ouais. Et puis voilà, c'est réglé. Si elle est un peu intelligente, je crois que c'est Rosé qui va gagner en fait. Je pense que c'est Rosé qui
va gagner. Je pense qu'elle a quand même de très très fortes chances de gagner, mais.
Parce que je pense que l'autre elle va trop. Parce que son style à l'autre c'est de charger comme.
Elle est bien bourrine, ouais, mais écoute. Enfin, ouais. Ouais, on verra quoi. Putain, je me rappelle du combat Nunes contre Kat Zingano qui était assez magnifique.
Ouais, je l'ai regardé il y a pas longtemps.
Ouais. Qui était genre qui était vraiment vraiment brutal. Mais ouais, écoute, on verra. On verra bien.
Bah écoute, est-ce qu'il n'y en a pas entre temps? Le prochain c'est le 207, il n'y a pas de carte. Non, si, non, il n'y a pas une carte.
Non, je crois bien que le prochain c'est le 207, ouais.
Ok. Bah écoute, ouais.
Je tiens juste à faire un dernier, dernier petit point. Qu'est-ce que tu penses de Francis Ngannou là, qui est doucement mais sûrement en train de devenir un énorme hype au sein du UFC quoi.
Ben. Je pense. Bah c'est. Ouais. Je,
t'as
je
vu
pense...
son combat ou pas contre
ouais, contre Anthony Hamilton, j'ai vu. Bah je pense que ouais, enfin c'est un bon. C'est un bon prospect. Comme vous dites dans le métier, je le soutiens à fond et tout, représente tout ça. Mais après, je sais pas au niveau ce que ça va donner. Quoi. Parce que là, son prochain, c'est donc Arlovski.
Arlovski, le mois prochain, c'est bientôt.
Je pense qu'en tout cas, le chemin qu'il prend en termes d'adversaire, c'est parfait. Quoi.
Ouais.
Je veux dire, la montée en grade, c'est parfait. Parce ouais. que moi, je me demande si on lui mettait, genre, je sais pas, un mec comme Junior Dos Santos maintenant, est-ce qu'il est prêt? Parce qu'il est quand même assez nouveau et tout. Donc, non, je pense que c'est parfait. Je pense qu'il gagne contre Arlovski là, parce que ouais, je pense qu'il gagne. Mais je pense qu'il a toutes les chances de son côté pour faire du bruit quoi, dans la division. Et en plus, vu que c'est une division, les poids lourds qui manquent cruellement de mecs, au final, il n'y a pas beaucoup de, quand tu regardes vraiment tous les combattants en poids lourds, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, si c'est fait intelligemment, il a des chances d'être une future star
ouais.
et représentée comme il faut. Quoi.
Ouais. C'est, sa victoire contre Anthony Hamilton m'a vraiment fait halluciner quoi.
Ouais.
C'est pas de truc basé vraiment juste sur la puissance quoi, et la force, c'était taré. Et comme tu dis, il lui file, enfin, je pense qu'ils ont conscience que le mec peut être potentiellement une perle rare, donc il lui file des bons combats en termes de progression. Quoi.
Là,
Il n'en voit pas tout de suite au feu, au carton, trop rapidement. C'est un truc qui me ferait plaisir. Ça fait le troisième. Ouais, il a fait 4 combats à UFC. Enfin, ça fait genre deuxième ou troisième combat que je vois de lui.
Ouais.
Le mec, faut vraiment qu'il travaille son trash talk. Enfin, pas son trash talk, mais même juste son, son post-fight talk. Ouais, ouais, parce ouais. que c'est. Le mec a une voix toute douce, toute tranquille. T'as l'impression qu'il est vraiment. Qu'il est au taf.
Ouais, tranquille.
C'est marrant, ça fait son charme à côté. Enfin, mais. Ouais. Et genre, son dernier combat face à Anthony Hamilton, il y avait une traductrice, ça a trop mal fait son travail. Enfin, ça ressemblait à rien. Quoi. Il y avait des mecs de son coin qui hurlaient la traduction à côté parce que la meuf était pas capable de faire son taf correctement. Donc, c'était assez rigolo.
Ah, j'ai même pas vu, je crois, la fin de le post-fight là. Ah, je regarderai. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter pour le prochain qu'est-ce qu'on fait? On plie bagage.
Écoute, je pense qu'on va plier bagage pour celui-là. Ouais. Et je t'avouerai que pour le prochain, donc c'était quoi le titre de celui-là?
L'éveil d'Antoine.
L'éveil d'Antoine. je serais assez curieux qu'on fasse un éveil de Valentin parce que on se connaît depuis longtemps, mais je connais pas grand-chose sur toi. Donc...
Tu veux mon parcours? Ok, pas de problème. Ouais, on fera ça. Ouais.
Très bien. Sortez les mouchoirs. À plus.
À plus tard.